Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. Il est 13h03 sur RMC. Un beau programme vous attend jusqu'à 15h où prendra place à l'Intégral Rugby, parce que vous le savez, l'un des événements de la journée, c'est cette demi-finale de Champions Cup, Coupe d'Europe de rugby, Toulouse-Harlequins. Mais nous, on va consacrer cette première heure à l'actualité omnisport avec le Mag Olympique et deux invités. Notre première invitée est Alexandra de Navacelles, descendante du baron Pierre de Coubertin, figure des Jeux modernes et de l'Olympisme tel que nous le connaissons. On évoquera un petit peu cet héritage alors que se profile, vous le savez évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'actualité des Jeux avec le journal olympique, les derniers résultats, les dernières compétitions, vous saurez tout. Et je vous ai promis un deuxième invité, c'est Florian Rousseau. Là aussi, on s'y connaît en matière de Jeux Olympiques, triple médaillé d'or. Il est aujourd'hui directeur du programme olympique à la Fédération Française de Cyclisme. Aujourd'hui se tiennent les championnats de France de VTT à Levens dans les Alpes-Maritimes, avec peut-être des tickets encore à glaner. Il n'y aura que deux athlètes qualifiés chez les hommes et chez les femmes en VTT cross-country. Il y a une absence de marque. C'est Pauline Ferrand-Prévot. Le 32-16 est ouvert avec, à partir de 14h, une heure 100% football avec coach Courbis. C'est un invité de marque déjà, l'entraîneur de Brest, Éric Roy, ancien joueur de coach et surtout entraîneur d'une équipe qui cartonne malgré le match nul hier face à Nantes. Les Brestois sont toujours 3e. Et le mardi 7 mai, vous le savez, c'est une formidable date. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des, en demi-finale de la Ligue des Champions Parc des Princes. Et RMC vous propose de vivre l'expérience RMC, la meilleure façon de vivre cet événement. En un beau match, visite des studios où nous nous trouvons, les studios RMC, et rencontre des équipes, des journalistes, des consultants. Direction ensuite le Parc des Princes pour assister au match que tout le monde attend la semaine prochaine avec la personne de votre choix. Et enfin, retour après la rencontre à RMC pour vivre les coulisses de l'after. Débrief du match en direct. Dès que vous entendez ce signal, vous avez 5 minutes au moment où vous entendez ce signal pour envoyer PSG au 7-32-16 pour vous inscrire. Dès que vous entendez ce signal, pas maintenant, l'alerte peut tomber à n'importe quel moment. Soyez donc bien attentifs. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC. Et comme promis, nous démarrons notre heure d'actualité olympique.
RMC, en route pour Paris 2024.
Avec notre première invitée, Alexandra de Navacelles, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin. Merci, bonjour Alexandra.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes représentante de la 4e génération. Pour résumer, votre arrière-grand-mère Marie était la sœur de Pierre.
Exactement, nous sommes donc des petits-neveux et depuis qu'il est mort, nous sommes une petite trentaine maintenant. Donc on s'est un petit peu organisé autour d'une association pour représenter son esprit. Une petite chose quand même que je voudrais clarifier, c'est que c'était son intention en fait que la famille reste un peu mobilisée. C'est-à-dire que quand il a quitté le CIO en 1925, il avait demandé à un neveu, donc c'était un fils de Marie, sa sœur, puisque ses deux enfants malheureusement n'ont pas... l'un était très malade dès la naissance et la deuxième s'appelait René et il l'appelait le petit oiseau, c'était une personne très fragile. Et pendant ces années, il faut savoir qu'aussi tous les hommes partaient travailler à la guerre et donc ils très peu revenaient... beaucoup mouraient. Et donc en fait, il a joué un rôle très important dans la famille de Marie, donc de mon arrière-grand-mère, en tant un peu que père, deuxième père, parce qu'elle a perdu son mari très tôt. Voilà, donc c'est une figure très présente dans notre famille. Et il avait demandé, donc en quittant le CIU en 1925, à un de ses neveux, qui était le premier, l'aîné de la famille de Marie à l'époque, qui s'appelait Maurice, de le représenter au CIO, donc d'être vraiment une présence pour être garant de sa mémoire, s'assurer que voilà le CIO n'allait pas partir dans une autre direction, parce qu'il y avait vraiment à l'époque encore c'était assez fragile, il n'y avait pas 206 nations qui se présentaient et donc il y avait un petit risque que ce soit pris par un pays ou un mouvement politique ou je ne sais quoi.
Et que l'Europe était encore dans des périodes de guerre. Évidemment, en France, on a connu 1870 juste avant, et puis voilà, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui vont arriver. Le but de l'association familiale, qui a un peu moins d'une dizaine d'années, quel est-il ? C'est rappeler sa mémoire, son héritage, le cultiver ?
Oui, alors en fait, on est notre mission, c'est vraiment d'être garant de sa mémoire, c'est-à-dire être un référent pour parler du personnage, expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il a fait cette idée, il a eu cette idée un peu folle à l'époque. Et puis, nous travaillons aussi, on représente la famille au CIO, donc nous sommes représentants officiels et on a la chance du coup d'être invités à des moments un peu symboliques, comme la cérémonie d'ouverture, des choses où sa mémoire est encore très présente.
J'étais à la flamme à Olympie.
J'étais à la flamme, oui, à Olympie le 16 avril. Et on a aussi eu la chance on nous a demandé d'être membre d'une des commissions, la commission culture et héritage, dont le but est de promouvoir la philosophie, les valeurs. Et en ce sens, on collabore avec eux. Et on a des projets pour Paris.
Ah, quels sont-ils ? Allons-y.
Alors, on a trois projets. Je ne vous cache pas qu'on les a bien pensés ensemble avec les membres du CIO. On les a aussi, bien sûr, discutés avec le COJOP. Le premier, c'est un anniversaire qui nous paraît un moment historique. Et c'est de fêter les 130 ans du CIO, qui auront lieu le 23 juin 2024, puisque c'était donc à la suite d'un congrès qui s'est terminé le 23 juin 1894. Donc ça sonne 130 ans, ça nous paraissait quand même assez symbolique de faire quelque chose. Donc il s'agit de faire un concert dans l'amphithéâtre où a eu lieu le fameux discours de la rénovation des Jeux modernes. Donc ça, c'est un concert qui est vraiment consacré à la jeunesse, hein, que nous allons faire en collaboration avec le CROUS, mais aussi... l'orchestre et le chœur des universités de Paris. Enfin, on a un panel qui représente un peu les étudiants. Et bien sûr aussi Thomas Barr qui va être présent et nous fera l'honneur d'un discours. Donc ça, c'est un grand temps fort. Un deuxième événement qui me tient beaucoup à cœur, c'est une exposition sur l'histoire de Pierre de Coubertin et les débuts du mouvement olympique. Comprendre un petit peu d'où venait sa pensée, qui l'a influencé, qui était contre lui aussi. Et on va faire un petit zoom sur l'Inde, qui est un pays où l'olympisme est devenu présent et il y a beaucoup de choses qui se passent.
Quand vous parlez, parce que le premier congrès olympique, il a eu lieu à Paris, donc ce fameux 23 juin 1894. Vous parlez d'un amphithéâtre, le lieu plus précisément.
Alors il s'agit de l'amphithéâtre de la Sorbonne, donc c'est le grand amphithéâtre. Où a eu lieu d'ailleurs les deux congrès qui sont importants. Le premier qui était en 92 et qui était une première initiative, mais c'était pas du tout... On l'appelle un peu le premier congrès parce qu'il l'a mentionné dans son discours de fin. C'était la dernière phrase littéralement de son discours. L'idée de faire rénover les Jeux. Mais il a planté en fait une petite graine. Deux ans plus tard, il a organisé donc le congrès qu'on connaît bien qui s'appelle Congrès Olympique dans 1894 qui s'est terminé le 23 juin.
Parce que c'est vrai que c'est à une époque, au niveau géopolitique, il n'y a pas de Société des Nations, pas les Nations Unies, rien ne rassemblait finalement les différents pays, les différents peuples. On était encore, on l'évoquait il y a quelques instants, beaucoup de guerres, il n'y avait pas forcément non plus des démocraties, des républiques partout, encore des royaumes, des empires.
Vous résumez bien son intention. En fait, c'était exactement l'idée. L'idée, c'était de réunir les peuples qui étaient encore dans des... dynamique nationaliste et puis beaucoup de craintes de l'inconnu. Enfin, il y avait tout ce qui pouvait stimuler la guerre. Et donc son grand souhait, mais c'est une idée qui vraiment est reprise des Jeux Olympiques antiques, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des Jeux Olympiques antiques, donc là, on est en 776 avant Jésus-Christ, l'histoire, c'est vraiment un roi d'une des cités de Grèce qui va avoir la pitié, parce que toutes les cités se battent entre elles. Donc en fait, Tout le territoire grec est en train de s'entretuer, pour résumer. Et donc la Pitié lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas réunis les hommes autour d'une cause qui les dépasse et fait des jeux pour les dieux. Alors à l'époque, c'était les dieux. Donc Pierre de Coubertin s'est dit, on va réunir les hommes et les réunir autour de valeurs communes. Le sport, qui sont des valeurs qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de barrière de langue, qui sont comprises de manière assez universelle, et qui permettent d'être un socle sur lequel tous les pays peuvent s'entendre. Avec donc sa proposition, c'est-à-dire trois valeurs olympiques, qui sont toujours aujourd'hui les grandes valeurs olympiques. Le premier qui est l'excellence, donc l'excellence c'est la recherche du meilleur de soi. Le deuxième c'est le respect des règles, mais aussi le respect des autres, le respect des différences. Et le troisième qui est l'amitié entre les peuples.
Il y a une nuance particulière parce que quand on parle de l'excellence, à l'époque, on associe beaucoup le sport à la gymnastique militaire. Oui. Et lui, c'était pas du tout son parti. Il était presque avant-gardiste parce qu'on parle du sport à l'école. Lui, il avait vraiment une vision assez scolaire pour le sport, voilà, dès le plus jeune âge, d'éducation, à travers ce prisme et pas du tout le côté militaire qui était quand même assez bien ancré à l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était sa grande idée, c'était de démocratiser le sport. Le sport à l'époque, qui était réservé, comme vous l'avez mentionné, à l'armée, c'était en fait un outil un peu dit de discipline, le sport. Et on ne le concevait pas du tout. D'ailleurs, les sports n'existaient pas comme on les connaît aujourd'hui. On développe des sports, le breakdance, fabuleux comme nouveau sport. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y en avait peut-être 9, c'est tout. Enfin, on en faisait très peu. Ils étaient réservés parfois à l'élite ou alors donc à l'armée. Lui, il a été très inspiré par le modèle anglo-saxon. Et en fait, sa première mission, et ce qui finit, d'ailleurs, c'était quelque chose qu'il a gardé en tête jusqu'à la fin de ses jours, c'est de rendre le sport accessible, pour tous, comme un outil de développement, comme un outil de, comme une discipline tout à fait aussi importante que que l'intellect ou que l'étude analytique de qu'on peut faire à l'école. Pour lui, c'était vraiment un élément indissociable et complémentaire. Le sport. Donc le sport à l'école, c'était sa première intention. Ça l'a toujours été, d'ailleurs jusqu'à la fin. Il a travaillé sur créer des universités ouvrières pour y mettre du sport, le sport pour tous. Donc oui, sa première quête, c'était vraiment le sport comme une discipline de vie.
Alors aujourd'hui, on ressort un peu des écrits de l'époque, on se dit mais... le baron Pierre de Coubertin était misogyne, il voulait pas vraiment des femmes. On a même dit qu'il était colonialiste, alors qu'il y a un épisode très fort au jeu de Saint-Louis aux États-Unis, où on est encore dans un pays en pleine ségrégation, les États-Unis, où on avait réservé une journée anthropologique. Et lui, s'était combattu contre ça. Il avait dit que c'était une hérésie et que c'était pas possible.
Absolument, il a même dit que cela perdra son attrait lorsque les hommes noirs, les hommes rouges, les hommes jaunes apprendront à courir, sauter et lancer, laisseront les hommes blancs derrière eux. Donc il était absolument outré. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu l'époque et où était la pensée, quel était le possible dans les consciences des hommes, parce qu'ils voyageaient quasiment jamais. Il connaissait pas l'Afrique. Quand il la connaissait, c'était avec des propos extrêmement limités. C'était pour venir avec une forme d'idée d'invasion ou de mercantilisme. Enfin, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en effet, il y a toute une époque qu'il faut peut-être comprendre. Ce qui est certain, c'est que dans les faits, alors il y a un autre fait que je trouve très intéressant et qu'on connaît pas de Pierre de Coubertin, c'est qu'il s'est battu pour qu'il y ait des jeux en Afrique. À l'époque, alors il faut imaginer aussi que le CIO, il n'était pas tout seul, hein, il était entouré. Il avait donc un comité qui était au début de 13, ensuite qui s'est agrandi, et ils étaient représentants de différentes nations, toujours internationales, avec cette idée de rester une équipe représentative des différentes parties du monde.
Et neutre.
Et toujours neutre. Donc la grande idée de l'Olympisme, c'est que ça n'a pas de religion, ça n'a pas de politique, ça n'a pas de nation. Et d'ailleurs, tellement de choses à raconter. C'était intéressant parce que pour les premiers Jeux qui ont eu lieu à Athènes, pour des questions un peu historiques et symboliques, il fallait rendre les Jeux au pays qui les avait créés. Sa première bataille, c'était de faire en sorte que les Jeux bougent dans un autre pays et qu'ils n'appartiennent pas à la Grèce, ce qui était compliqué pour les Grecs qui pensaient que les Jeux allaient toujours avoir lieu en Grèce. Mais oui, donc il a essayé de travailler ou développer les Jeux pour l'Afrique à plusieurs reprises avant la Première Guerre mondiale. Finalement, en 1923, il a réessayé. Donc c'était une de ses grandes préoccupations d'inviter toutes les nations du monde entier.
Dans son héritage, où il fut président du CIO, pas le premier, c'était un grec, mais en 1896, il a pris les rênes du CIO. Il y a le fameux drapeau avec ses anneaux, il y a le déménagement en Suisse, hein, sur ce côté neutralité.
Oui.
Et il y a évidemment, tout le monde pense à cette phrase, le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, une citation tronquée en fait.
Oui, alors c'est amusant parce qu'on voit à quel point l'histoire simplifie, raccourcit, c'est partie de ces choses qu'il faut peut-être clarifier. Parce qu'en fait, ça résume pas tout à fait sa pensée. Ce qu'il a dit, c'est le plus important, ce n'est pas de participer. Pardon, le plus important, ce n'est pas juste de gagner, pardon, c'est de s'être bien battu. Donc, toute la logique est sur ce qu'on met dans le jeu. Et l'idée, c'est de donner le meilleur de soi.
Le don de soi, voilà, d'avoir tout fait pour...
Le dépassement, de pas penser à juste à la médaille ou à être meilleur que les autres, être dans une dynamique vraiment de dépassement de soi-même, dans une conscience aussi de ses limites et du mieux que l'homme peut donner à l'humanité, parce qu'on fait des records à chaque fois et c'est des prouesses admirables qui donnent un exemple aussi à la jeunesse.
Alexandra de Navasselle, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin, est avec nous en direct sur RMC. Alexandra, aujourd'hui, vous nous avez raconté vos liens avec le CIO, vous êtes régulièrement invité aux grands événements, vous faites partie de commissions. Et pour ces Jeux de Paris 2024, alors la flamme passera près du château de Mirville. Vous avez des liens, qu'est-ce qui se passe concrètement entre voilà le lien entre les descendants du baron et l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024?
Alors oui, on travaille avec toutes les personnes qui sont parties prenantes et qui veulent mettre en lumière l'esprit olympique sont nos partenaires, notamment donc la direction culture du COJOP, avec qui on a des liens très agréables, on collabore un peu sur nos projets, on s'assure que on est synchronisés parce qu'il y a tellement de choses, et d'ailleurs c'est merveilleux, la France entière va être au rendez-vous, en tout cas en ce qui concerne la culture, les associations sportives, les différentes régions, la flamme qui passe dans toutes ces parties de la France. Donc c'est vraiment une très belle fête nationale et une fête du monde, où on reçoit le monde. Donc vous m'avez mentionné la flamme et Mirville. Donc oui, Mirville, c'est un lieu qui a beaucoup d'héritage pour nous. Donc c'était une maison qui appartenait à sa mère et qui est en Normandie, et où il allait régulièrement pour écrire, se ressourcer, faire du sport. C'est un espace qui lui était cher. Et la flamme va y passer le 5 juillet.
Et vous serez présent, j'imagine.
Absolument.
Ça. On lui doit aussi les Jeux d'hiver.
Oui.
Chamonix. Et sur Paris 2024, est-ce que vous avez retrouvé des écrits qui remontent évidemment à 1924 avec ces Jeux d'été de Paris, qui d'ailleurs vont marquer un peu un éloignement juste après ces Jeux, par rapport au CIO. Est-ce qu'on voit qu'à l'époque aussi, il y avait un peu du JO bashing, entre guillemets, en 1924, ou pas du tout?
Alors, il y a eu du bashing un peu à toutes les périodes. Il y a eu beaucoup de résistance. Il faut dire qu'au tout début, personne ne croyait vraiment à ces Jeux. Donc, il a dû quand même lutter très fort. Mais 1924, c'est une date en effet symbolique, parce que c'est une date où il y a eu beaucoup de choses. C'était ses derniers Jeux. Il s'est retiré après. Donc, il est parti à la retraite. Mais il y a quand même des choses qui sont passées qui étaient assez symboliques. Une première chose, c'est aussi le premier village olympique. Donc, ça, c'est une création qu'il a fait. Et le village olympique, c'est vraiment un lieu qui symbolise bien la pensée olympique, c'est-à-dire cette réunion internationale, tous ces pays du monde entier, 206 nations cet été, qui mangent ensemble dans la même cafétéria, qui se soutiennent avec cette compréhension de l'effort qui est nécessaire pour arriver là où ils en sont. Donc c'est un village international qui était mis en place la première fois donc à Paris. Paris, donc, c'était aussi l'occasion de faire beaucoup de nouvelles choses. Il y a eu une présence de femmes, ça vous le saviez, mais il y en avait un peu plus à chaque jeu. Donc ça va être une opportunité de peut-être rappeler les choses qui ont été innovées et commencées en 24.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandra de Navasselle, donc descendante, représentante de la 4e génération de la famille de Coubertin, d'avoir bien fait une petite halte dans le studio d'RMC pour ce point d'histoire. Ça fait toujours du bien de se rappeler les racines et un petit peu ce que l'histoire nous enseigne aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Le magazine olympique continue avec, d'ici 14h, le journal olympique, les dernières informations et un autre invité, Florian Rousseau, directeur de la du programme olympique à la Fédération française de cyclisme, puisqu'aujourd'hui se tiennent à Levens, près de Nice, les champions de France de VTT. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Il est 13h23 sur RMC. Très bon début d'après-midi à notre écoute. On est en cœur de notre magazine olympique. Vous venez d'entendre l'une des descendantes du baron de Pierre de Coubertin évoquer l'actualité olympique, l'histoire qui évidemment nous marque 100 ans après les Jeux de Paris 2024, les Jeux de 1924. Et donc ces Jeux de Paris qui nous attendent dans quelques mois. Et nous accueillons notre deuxième invité, directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme. Et on ne s'en lasse pas de le rappeler, triple champion olympique en cyclisme sur piste. Florian Rousseau est avec nous. Bonjour Florian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. L'événement aujourd'hui en matière de cyclisme, ce sont les championnats de France de VTT à Levens, près de Nice. Florian, une étape importante, il reste peu hein, peut-être d'épreuves pour que les coureurs, aussi bien femmes et hommes, bah, se fassent un petit peu les dents, parce que ça va arriver très vite, les Jeux, et notamment ces dates du 28 juillet et 29 juillet pour les épreuves femmes et hommes.
Oui, ça va arriver très vite. Donc le championnat de France fait partie pour les athlètes d'un rendez-vous très important. La période de fin de qualification olympique se terminera donc fin mai. Et puis nous annoncerons la sélection pour les Jeux début juin. Même s'il y a peu de surprises, on connaît les contours. On peut imaginer les contours de la sélection pour les Jeux de Paris, pour notre équipe de VTT.
Mais on ne sait jamais, une blessure, une chute, ça peut vite arriver hein, dans la vie d'un cycliste. Il y a quand même une particularité, vous avez un athlète en moins sélectionné par rapport à Tokyo ?
Oui, donc nous aurons deux quotas donc pour les féminines et puis deux quotas par nation aussi donc dans l'équipe masculine, alors que c'était trois à Tokyo. Donc voilà, le CIO et le COJO a réduit notamment le nombre de participants pour qu'il y ait beaucoup plus de nations représentées.
Quand on voit chez les hommes, on a quatre Français dans le top 10 avec Jordan Sarrou qui est numéro 1. C'est évidemment, on se dit qu'il y a quand même un peu de déception parce qu'il y a quand même largement la place pour en emmener un troisième et que ça pouvait aussi peut-être faire une chance de plus de médailles.
Bien sûr, donc il y a de la concurrence, une densité dans l'équipe masculine. Et bien évidemment, il n'y aura que deux titulaires, donc des déçus aussi. Mais bon, ils sont préparés notamment à ces modalités de sélection qui sont très particulières pour des Jeux, où c'est très restrictif au niveau des quotas. Donc ils ont préparé à tout ça. Ça fait partie du sport. Donc chacun tente sa chance, a envie de faire ses Jeux. Et puis bah, malheureusement, le rêve olympique pour certains va s'arrêter avant les Jeux de Paris.
Est-ce que y a une culture hein, des médailles d'or, des titres en VTT? On pense évidemment à Miguel Martinez, Julien Absalon, deux fois couronné, Julie Brisset à Londres. Est-ce que quelque part on est l'état d'esprit, c'est de courir un petit peu, dire passé glorieux, c'est pas un passé qui est si lointain, mais on avait quand même une tradition de titres olympiques et c'est vrai que ces dernières années, on a eu quelques désillusions. Et je pense évidemment un peu à Pauline Ferrand-Prévot qui était notre toujours grande chance et qui a eu voilà, des coups durs sur les derniers Jeux.
Oui, bien sûr, Pauline a participé à plusieurs Jeux Olympiques et effectivement les Jeux de Paris ont encore une saveur particulière, mais je crois qu'il faut faire confiance aux athlètes, à son expérience, elle l'a démontré avec de nombreux titres de champion du monde et je crois qu'elle est très très animée en tout cas pour être très performante le 27 ou le 28 juillet à Paris, comme toute l'équipe masculine et comme tous les cyclistes d'ailleurs, notamment d'être au rendez-vous de ces Jeux de Paris. Il y a beaucoup de motivation, d'excitation et ça va être un moment extraordinaire.
Alors chez les filles, il y a Loana Lecomte évidemment qui peut aller chercher un quatrième titre de championne de France tout à l'heure. Pauline Ferrand-Prévot a décidé de faire l'impasse. Vous, en tant Florian Rousseau, que directeur du programme olympique, c'est les athlètes, voilà, se connaissent avec beaucoup d'expérience comme Pauline Ferrand-Prévot, elles peuvent voilà faire un peu leur programme sur mesure. On ne leur impose pas tellement de cadres, d'épreuves, du moment qu'il y a évidemment par rapport à la période de qualification olympique tous les prérequis remplis.
Oui, donc il y a toujours un chemin de sélection quand on parle des critères ou des modalités de sélection, donc elle le connaissait, mais je crois qu'à saison exceptionnelle, saison extraordinaire, saison exceptionnelle, préparation exceptionnelle, et donc Pauline n'est pas au championnat de France, mais c'est vraiment des préparations qui sont... C'est du coup humain, donc Loana est présente, ça fait partie aussi ce championnat de France de sa préparation pour être en forme au mois de juillet, et Pauline a fait le choix de faire une autre compétition qui correspond pondait mieux à cette période, à elle, de travailler, notamment ce qu'elle avait besoin de travailler.
Est-ce qu'on ressent une peur chez les coureurs de chuter? Il y a Joshua Dubot, voilà, qui a connu une chute il y a quelques semaines, parce que là, on est véritablement dans la dernière ligne droite. Quand on est les mieux placés pour les tickets olympiques, on vient de parler des filles, mais c'est vrai que Victor Koretsky, qui a remporté le test event olympique, et Jordan Sarrou, numéro 1, partent peut-être avec une longueur d'avance. Est-ce qu'on a un peu cette peur de la chute et de la blessure?
Nous, peut-être, oui, le staff. Après, les athlètes, non, ce sont des professionnels, donc ils maîtrisent vraiment leur sujet. On n'est jamais à l'abri d'une chute, mais si on est trop sur la retenue, bah, ça va être néfaste, notamment bah, pour aller obtenir ou gagner des médailles au jeu. Donc, non, ils sont dans une dynamique. Lorsqu'ils prennent part à une compétition, c'est pour la faire à 100%. Et puis, je le répète là depuis le début de l'interview, préparer cette échéance qui est très particulière, et donc ça veut dire que chaque compétition permet de construire la forme qu'ils devront avoir, qui devra être optimale le jour des Jeux.
Florian Rousseau est notre invité sur AMC. Florian, le cross-country des dates, j'ai noté 28 juillet pour les femmes, 29 juillet pour les hommes, à Élancourt, hein, sur un site aménagé. Il y a un avantage ou pas de connaître ce site? On sait que la piste à Saint-Quentin, eh bien les pistards peuvent connaître, sentir la piste. Est-ce que là, il y a aussi un avantage? On peut s'exercer pour les Français sur cette colline d'Élancourt?
Il y a eu le test event au mois de septembre, donc là où l'ensemble des pilotes français, mais aussi internationaux, hein, tous les concurrents, les adversaires des Français, ont pu découvrir le site. Et puis c'était l'occasion aussi pour le COJOP de se mettre en configuration géo et de tester un certain nombre de choses, ou de réajuster notamment des parties sur le circuit, puisque les athlètes ont roulé dessus. Donc donc il va y avoir aussi ce que le COJOP appelle des Open Training Day, donc où les athlètes pourront aller, pas que les Français bien sûr, mais aussi les étrangers roulés sur le circuit. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de décalage horaire à gérer. Lorsqu'on est à l'étranger, et quand c'était à Tokyo ou à Rio, il faut organiser un voyage, un déplacement. Donc ça s'intègre facilement dans la programmation des compétitions, et surtout des compétitions du championnat de France et puis de la Coupe du Monde de Novomesto. Donc c'est plutôt un avantage de jouer à domicile et de ne pas avoir à gérer des déplacements et des voyages et des décalages horaires, oui, bien sûr.
Mais il n'y a pas tant d'entraînement supplémentaire que ça. Vous nous dites, Florian, que c'est assez finalement encadré. Je me souviens qu'on avait interrogé quelques pistards avant, où il y avait quand même plus d'entraînement sur ce vélodrome que là, ce que vous nous dites pour Élancourt, où ça semble quand même plus encadré par les organisateurs.
Le site d'Élancourt est un nouveau site de compétition, donc c'était un chantier aussi, donc il a fallu construire. Donc il y a eu, après le test event, encore des travaux d'aménagement et de préparation pour la compétition. Donc sur un chantier, on peut pas s'entraîner comme ça. Et puis il y a quand même aussi ce que portent les valeurs du CIO pour que ce soit équitable pour tout le monde. À la différence du vélodrome, le vélodrome existe depuis 2014, et bien sûr c'est le site d'entraînement donc des pistards français. Et puis il y a eu 2 championnats du monde, donc tout le monde connaît le vélodrome. Donc la différence quand même, bien évidemment, un vélodrome, ça, on l'apprivoise assez rapidement. Un parcours de VTT, il y a des zones piégeuses, des zones très techniques. Après, c'est du
la
très
météo.
Haut niveau, donc ils ont pu. La météo aussi, ça peut changer beaucoup de choses. Mais lors du test event, déjà, les athlètes ont pu prendre beaucoup d'informations. Mais je crois que déjà, de faire les jeux chez soi en France, de jouer à domicile, de rouler à domicile, on va prendre en tout cas les athlètes toute l'énergie des supporters et des fans, et ce sera quelque chose de très bien.
Quand on a connu les succès, Florian, en ce qui vous concerne, que ça soit Atlanta, Sydney, on revit des émotions d'être au cœur à la fois d'accompagner les athlètes en tant que directeur du programme olympique, et d'être un petit peu au cœur de l'événement. On revit toutes ces émotions. Ces préparations.
Oui, c'est très excitant, comme à chaque fois. Donc, moi, je ne pense pas au passé, mais moi, dans mon métier, j'essaie de transmettre, accompagner, guider. Et je travaille principalement avec l'ensemble des coachs des 5 disciplines du programme olympique à la fédération, qui correspond à 22 épreuves pour les Jeux de Paris. Mais oui, ça reste, même dans mes fonctions, donc je ne suis plus athlète ou entraîneur, mais oui, ça reste un moment incroyable. Ce sont des Jeux, donc. Le sport, c'est formidable, c'est joyeux, donc il y aura des émotions très fortes et probablement aussi des déceptions, mais c'est ça aussi le sport. Ça va inspirer aussi des jeunes, ou des moins jeunes, ou des adultes, et puis ça va être un moment de fête, de vivre quand même cet événement planétaire, mondial, en France, avec, j'écoutais notamment l'interview d'avant, la personne qui parlait avant moi, donc 1924, c'était il y a 100 ans, donc il y a l'histoire qui ressurgit, et oui, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On se lâche jamais des Jeux Olympiques. Moi, j'en ai participé à 11 avec des Jeux Paralympiques, et c'est toujours la même excitation.
Il y a un spectre assez large quand on est directeur du programme olympique. On l'a dit, 5 disciplines, route, piste, VTT, BMX, racing, freestyle. Comment on chapeaute tout ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même très large. C'est des grandes familles.
Oui, c'est une grande famille, mais une richesse en fait, parce que c'est 5 sports différents avec des habitudes, des cultures différentes, et notamment avec l'ensemble des coachs, des head coachs, on a travaillé de manière transversale, bien évidemment pas sur du côté technique. Moi maintenant, je ne suis plus un technicien pur de la performance, mais comment on prépare cet événement, qu'est-ce que ça veut dire un événement des Jeux à Paris, et puis mon ambition, notre ambition à la Fédération de cyclisme, c'est depuis 2 ans et demi où je suis à la Fédération après les Jeux de Tokyo, c'est de mettre dans les meilleures conditions les athlètes pour délivrer le jour J le meilleur de leur potentiel. Et puis moi, c'est ce que je fais aussi avec les coachs pour les accompagner, partager de l'expérience, du retour d'expérience que j'ai pu apprendre dans d'autres fédérations, au contact d'autres fédérations et sur l'ensemble des Jeux. Et puis tout en gardant notamment, bien sûr, aussi sa spécificité. Et c'est très, très, très... c'est agréable de passer d'un univers à l'autre. Vous voyez, aujourd'hui je suis au VTT, la semaine prochaine je serai au FIS à Montpellier avec le freestyle. Donc c'est une richesse pour notre fédération vraiment d'avoir 5 sports différents avec des cultures différentes, et ça a vraiment nourri et alimenté nos coachs et puis pour travailler avec les athlètes.
Justement, est-ce qu'on arrive à créer un esprit équipe de France entre les différences de sites? Évidemment, des fois, quand c'est course en ligne, course d'un jour, la présence, que ça soit au village ou sur les sites olympiques, est assez restreinte. Pour la piste, voilà, ça s'étend un petit peu plus. Et il y a la dimension aussi collective qui rentre en ligne aussi. Mais est-ce qu'on arrive à créer une émulation? On peut créer une émulation sur un côté équipe de France de cyclisme avec, à travers toutes ces disciplines?
Oui, on essaie, donc avec des calendriers et des agendas très fournis et qui ne sont jamais au même endroit. C'est la particularité des Jeux d'avoir notamment ces compétitions pendant 15 jours en même temps du cyclisme. D'habitude, les championnats du monde sont éclatés entre disciplines. Les athlètes se croisent peu. Mais en tout cas, moi, avec les coachs, j'ai travaillé notamment sur cette notion de des Jeux restent une compétition très particulière, d'équipe de France de cyclisme olympique. Et puis, bon, pour des choix de performance... 4 disciplines seront logées dans les Yvelines, et puis on a raisonné sur notre village olympique pour recréer ces conditions du village olympique et de ses valeurs olympiques. Voilà, donc ça c'est important de travailler comme ça. Donc on l'a fait surtout avec les coachs, et puis après les coachs, notamment sur des collectifs comme à Saint-Quentin, que ce soit le BMX Race ou la piste, se côtoient régulièrement.
Ça veut dire qu'il y a village dans les Yvelines, hein, il y a quelque chose qui est mis en place directement aux Yvelines, il n'y aura pas forcément besoin de faire des allers-retours avec le village olympique situé en Seine-Saint-Denis.
Oui, c'est ça, parce que donc nous on a 3 disciplines, donc le VTT, la piste et puis le BMX Racing où ça se déroule dans les Yvelines pour des choix de performance et de réduire les temps de déplacement. Donc on est à moins de 20 minutes des sites, à 10 minutes pour le VTT par exemple, donc c'était quelque chose, un choix de fait. Mais là c'est la fédération qui a identifié un endroit, un établissement pour regrouper et mutualiser toutes nos expertises aussi qui accompagnent les athlètes pour les mettre vraiment dans les meilleures conditions de proximité pour que les staffs puissent bien travailler avec les athlètes. Donc 4 disciplines, donc avec la route, sont logées dans les Yvelines, et puis le BMX Freestyle sera au village olympique puisque le site est à la Concorde, donc ils seront beaucoup plus proches de la Concorde en étant logés au village. Ouais.
Quand on entend... le président de la République, notamment, pour ne pas le citer, sur l'objectif médaille, on sait que le cyclisme dans ce spectre très large, hein, avec la route, la piste, le VTT, le BMX, est généralement quand même un pourvoyeur de médailles. On se sent un petit peu boosté, on se sait encore plus attendu, rien que des jeux à la maison suffit, hein, à provoquer cette excitation supplémentaire. Ou le fait d'entendre le président de la République regarder d'un œil en disant on aimerait quand même avoir beaucoup de médailles et d'être limite sur le podium des nations, ça met une pression supplémentaire.
Non, ça met pas de pression supplémentaire. Je crois que les sportifs, de fait, on a la pression parce que ça fait des années qu'ils travaillent. Depuis 7 ans, on connaît notamment qu'il y aura les Jeux à Paris. Donc beaucoup d'athlètes pensent à cette date, à cet événement, à ce rêve et cette aventure olympique. Et pour ceux qui seront sélectionnés, avec cette ambition, parce qu'on a des athlètes à la Fédération de cyclisme qui ont le potentiel pour faire des médailles. Donc voilà, donc la pression, c'est un bon signal. Donc les athlètes et bien sûr les coachs font tout pour être prêts. Et puis nous, moi, dans mon rôle ou à la fédération, on est là pour soutenir, encourager bien sûr les athlètes, nos athlètes à jouer leur chance à fond ce jour-là. Voilà, non, faut pas rajouter de pression supplémentaire par rapport à l'objectif qui a été fixé par le président de la République ou par la ministre des Sports.
Merci beaucoup Florian Rousseau, directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme, en direct de Levain, où se déroulent cet après-midi les championnats de France de VTT. On aura d'ailleurs le vainqueur ou une vainqueur tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup Florian.
Merci beaucoup, à très vite.
Et on suivra évidemment avec grand plaisir les différentes disciplines du cyclisme. Tiens, puisqu'on parle cyclisme, le Giro, la deuxième étape, ça vient de partir, 160 km avec déjà une arrivée, eh bien en altitude ou en tout cas en montée. Johan Bredov suit ça pour nous. Salut Johan.
Salut Arnaud, salut à tous. 143 km encore à parcourir pour cette deuxième étape. On a 5 hommes échappés, tiens, 100% italiens, italiennes s'est échappé avec Scaroni, Piccolo, Davide Baez, Fiorelli ou encore Marcellusi. Voilà pour les 5 italiens devant qui possèdent un peu moins de 4 minutes d'avance sur le peloton emmené par les Ineos Grenadiers, l'équipe de Jonathan Narváez. Le maillot rose, lui, qui s'est imposé devant Maximilian Charman et surtout devant Tadej Pogacar. Même si le Slovène a été impressionnant, il a pris du temps à tous les autres outsiders. Il a été battu hier, mais il pourrait prendre sa revanche, tu l'as dit, avec cette arrivée au sommet du sanctuaire d'Europa. 142 km encore à parcourir.
Réponse sous forme de teasing, Johan. Est-ce que Narváez garde son maillot rose ce soir?
Je pense pas.
Voilà, merci. On en reparlera effectivement avec cette belle arrivée qui nous attend et peut-être Tadej Pogacar peut frapper un deuxième grand coup après hier, même s'il a perdu au sprint où il a terminé troisième. Nous on revient dans un instant avec le journal olympique de Pierre Thévenet, les dernières informations, les dernières actualités. C'est le Mag Olympique sur RMC dans l'Intégral Sport. Il est 13h40, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Jusqu'à 15h, l'Intégral Sport sur RMC, vous avez fait le bon choix. Nous sommes en plein Mag Olympique avec l'actualité. Déjà des interviews à retrouver en podcast. Florian Rousseau, que l'on vient d'avoir, directeur du programme olympique à la Fédération Française de Cyclisme avec ses championnats de France de VTT que l'on suit avec attention parce que ce sont des chances de médaille pour Paris 2024. Et nous accueillons en studio Pierre Thévenet. Bonjour Pierre.
Salut Arnaud, salut à tous.
Le journal olympique avec les dernières informations, les derniers reportages de la rédaction de RMC Sport. On commence avec de la natation artistique puisque ce sera une grande première lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Des hommes pourront participer aux épreuves par équipe mixte de natation artistique.
Exactement, et justement en ce moment se déroule un test event au tout nouveau CAO, le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Léna Marjac est sur place. Bonjour Léna.
Bonjour à tous.
Tu as pu rencontrer Bill May, qui est un nageur américain qui pourrait justement devenir le premier homme sélectionné aux Jeux Olympiques.
Oui, et d'ailleurs, hier soir, lors du programme libre par équipe mixte, eh bien, les États-Unis étaient très attendus. La raison, c'est la seule équipe composée donc de 7 femmes et un homme. L'homme, c'est Bill May, 45 ans, pionnier et légende de la natation artistique. Et aujourd'hui, son défi, c'est de gagner officiellement sa place au sein de l'équipe américaine pour participer aux Jeux Olympiques de Paris.
Aller aux Jeux Olympiques, ça serait la cerise sur le gâteau pour ma carrière. Si j'ai la chance d'aller aux JO, des jeunes pourront me voir, j'espère, et se diront, ok, il y a un homme aux JO. Mais que ce soit un garçon ou une fille, ils pourront voir la diversité et l'inclusion. Cela peut inspirer d'autres athlètes pour essayer n'importe quel sport.
Parce qu'aujourd'hui, la natation artistique est un sport très souvent, voire toujours assimilé à un sport exclusivement féminin. Alors voir des hommes concourir avec des femmes, cela permettrait de briser de nombreux stéréotypes. Et c'est en tout cas ce qu'espère Andreas Fuentes, l'entraîneur de l'équipe américaine.
Il y a eu celui de la femme dans le sport pendant beaucoup longtemps, mais aussi dans l'homme, dans les sports féminins. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, même si c'est vu comme quelque chose qu'il y a une femme qui fait normalement, non? Et c'est applaudi d'être courageux comme ça, de suivre ta passion. Ben oui, c'est ce qu'on veut faire.
Alors maintenant, rien n'est fait pour voir Bill May au JO cet été parce que hier soir, l'équipe américaine a terminé sixième de la compétition. C'est très loin du résultat espéré et surtout, son entraîneur l'a rappelé, Bill May n'a pas encore le niveau et le sélectionner au jeu serait un facteur social, mais il ne faut pas oublier aussi le facteur sportif qui est à prendre en compte.
Et nous, dans notre équipe de France, est-ce qu'on a des hommes, Léna?
Et non, dans notre équipe, il n'y a pas d'hommes, mais il y a un Français qui évolue en tout cas dans les compétitions individuelles, donc des compétitions qui ne sont pas olympiques. C'est Quentin Rakoto-Malala. Il a 20 ans et il a nagé justement il y a quelques instants lors de la finale du programme libre. Il a terminé 7e et à notre micro, il est revenu sur cette avancée significative pour son sport.
C'est une belle avancée pour notre sport et même pour le sport en général, pour la vision qu'ont les gens de ce sport, de notre sport, et pour l'évolution même de notre discipline qui tend à s'ouvrir aux hommes depuis maintenant quelques années. Voilà, maintenant ce qu'on espère, c'est qu'au moins un garçon fera partie de cette Olympiade. Et moi, je suis hyper content d'être dans le mouvement, d'être dans cette étape où notre sport évolue.
Alors Quentin, lui, ne vivra pas les Jeux de Paris cet été, mais il a quand même ce rêve dans un coin de la tête pour, on l'espère, une prochaine édition.
Merci Léna, en direct du Centre Aquatique Olympique. On reste d'ailleurs dans ce centre, juste en face du Stade de France, avec cette passerelle magnifique installée. Pierre, dans ce centre auront lieu demain les test events, et le test event aura lieu, le test event de water polo.
C'est un match de gala pour l'équipe de France féminine à 20h demain soir face aux États-Unis. C'est la référence du water polo mondial. Elles sont triple championne olympique en titre, quintuple championne du monde. Les Bleues, en face, elles préparent les premiers Jeux olympiques de leur histoire, avec un petit peu d'États-Unis dans leur rang, puisque leur gardienne est américain. Julien Richard, elle s'appelle Maya Raikro. Tu l'as rencontrée cette semaine avant un match qu'on imagine spécial pour elle.
Oui, mais pas de confusion au moment des hymnes demain.
Non, quand il y a les hymnes des États-Unis, moi j'ai porté le bleu, blanc et rouge. So.
Du bleu, blanc, rouge sur le maillot, rien de prédestiné Maya Raikro à devenir joueuse de water polo, issue d'une famille de basketteurs. Sa maman a joué en WNBA. Elle découvre un peu le water polo par hasard et sur le tard à 16 ans au collège alors qu'elle ne sait pas nager. Mais très vite, elle intègre les équipes nationales universitaires américaines et choisit après le bac de rejoindre la France. La Californienne de naissance, qui jongle encore un peu entre le français et l'anglais, se retrouve à Lille en 2018, enrôlée par le Lille Université Club.
Moi, j'aime bien les États-Unis, mais parce que j'ai toute ma famille là. Mais pour vivre et pour la vie et pour beaucoup de choses, j'aime bien la France. Et pour moi, ça, c'est chez moi. So, because I'm from California, people ask me.
Parce que je viens de Californie, les gens me demandent pourquoi j'aime la France et Lille. Parce que les gens en France ne vivent pas pour travailler, mais travaillent pour vivre et avoir une vie.
Et l'américaine de 29 ans s'est totalement adaptée à son nouvel environnement.
J'aime bien le raclette, j'aime bien le Welsh. Very shitty, you know, very. Tartiflette, j'aime tout, j'aime tout.
Sollicitée par la Fédération française, Maya Raikro a dû attendre 2023, les mondiaux de Fukuoka au Japon, pour être naturalisée et enfin porter le bonnet de l'équipe de France.
Pour moi, c'est un honneur. Franchement, j'ai pas de mots. C'est vraiment un rêve.
Moi, j'ai au pressing fort.
Et c'est aussi un renfort de poids pour les Bleus.
Fort le 2. Maya, moi, je la place sur les deux, trois meilleurs gardiens du monde.
L'entraîneur grec de l'équipe de France, Théodoros Laurentos, et sa coéquipière, Camille Radosavljevic.
Une athlète vraiment intéressante, beaucoup d'énergie positive sur le groupe.
Une joueuse avec un talent exceptionnel qui a changé le profil de notre équipe depuis qu'elle nous a rejoint.
Maya Raikro a mis sur pause cette année son master en langues, littératures étrangères à Lille pour se concentrer sur les Jeux. Et même si sur le papier, les chances de l'équipe de France féminine à Paris cet été semblent minces, elle rêve de grandes choses pour les Bleus.
Mon rêve, c'est vraiment de gagner une médaille. Et c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Caterpillar turning into a butterfly.
C'est comme une chenille qui se transforme en papillon. On a tout ce qu'il faut pour se transformer en papillon. C'est juste une question de croire dans ce que l'on fait, croire dans notre staff et faire les efforts pour transformer notre équipe en ce que je sais que l'on est et que l'on peut faire.
Première occasion de déployer leurs ailes face aux États-Unis demain à 20h au Centre Aquatique Olympique.
Le reportage de Julien Richard. Alors, il y a Team Raclette ou Team Welsh? Team Raclette, Team Welsh, Pierre?
Raclette quand même.
Welsh, je suis du Nord.
Bon, je vais trancher.
Moi, on sait déjà, Arnaud. T'es Tim... amoureux de Lille?
Oui, Team Welsh.
Allez, voilà.
On quitte les bassins et les cuisines au fromage, direction les terrains de rugby à 7, Pierre.
Et oui, on est entré dans le Money Time sur le circuit mondial. Les équipes de France disputaient le tournoi de Singapour ce week-end, avant-dernière étape, avant les Jeux de Paris. Et on retrouve notre spécialiste de rugby à 7 et fan de Welsh, Winnie Claret.
Salut,
Winnie.
Salut tout le monde.
La bonne nouvelle, c'est que les rugby women tricolores ont décroché le bronze ce matin et qu'elles retrouvent le podium sur le circuit mondial.
Voilà, après deux tournois 100 à Los Angeles, en Marseille, à Hong Kong en avril, les Bleus glanent la 4e médaille de leur saison en s'imposant largement sur les Fidjiennes, 29 à 7 pour la 3e place. Mais une question se pose quand même pour les Françaises. Jouent-elles à armes égales avec les leaders néo-zélandaises et leurs dauphines australiennes? Les joueuses de David Courtec se sont encore tombées en demi-finale contre l'Australie ce matin. Et pour le sélectionneur, il ne s'agit pas tant de jeu, de technique, non. Ce qui différencie ces équipes de la France, c'est leur assurance, leur confiance en elles. Écoutez.
Il y a une équipe qui dégage une espèce de constance, une espèce d'assurance un petit peu presque hautaine, et une équipe qui est une équipe enthousiaste, qui est une équipe qui a des qualités, qui se crée les occasions, mais qui quelque part manque de confiance en nous, d'affirmation de nous-mêmes en tant que groupe, etc. Moi, je le ressens beaucoup.
Le prochain rendez-vous à Madrid pour le tournoi final avant les Jeux du 31 mai au 2 juin. Les rugbymen français, eux, devront relever la tête après leur 8e place à Singapour ce week-end. Ils y retrouveront à Madrid leur cadre ménagé ce week-end et surtout leur superstar Antoine Dupont.
Merci Winnie. Antoine Dupont qui sera non pas à 7 aujourd'hui,
à 15.
Mais à 15, c'est le grand événement de la journée à partir de 15h, l'intégral rugby sur RMC. Christophe Cessieux, Yann Delegue avec Wilfried Templier et Julien Landry au commentaire pour ce match entre Toulouse et les Harlequins qui se passe au Stadium.
Au Stadium Municipal, tout à fait. Il y avait débat, mais c'est tranché.
Voilà pour le Stade Toulousain et aller chercher rejoindre le Leinster qui s'est imposé. Allez, non sans balles, un peu chahuté en deuxième mi-temps face à Northampton. On poursuit ce journal olympique à 13h50 sur RMC avec Pierre Thévenet, direction pas du tout Toulouse, mais l'Arabie Saoudite et le Saudi Smash de Jeddah. C'est un grand tournoi de tennis de table. On parle évidemment beaucoup des frères Lebrun, mais il n'y a pas Simon Gauzy, ni Alexis Lebrun n'ont marqué de points dans la qualification aux Jeux Olympiques.
Oui, parce qu'on le rappelle, Félix Lebrun, lui, est déjà qualifié, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule place pour les Jeux Olympiques à se partager entre les deux autres meilleurs pongistes français. Mais ils ont tous les deux été éliminés au premier tour de ce tournoi de Jeddah. Simon Gauzy par le numéro 1 mondial Wang Chukin et Alexis Lebrun par l'allemand Dimitri Ovtcharov. Pour l'instant, Simon Gauzy devance l'aîné Lebrun de 10 places au classement mondial. Il a donc une petite longueur d'avance pour la qualification aux JO, mais c'est un comité de sélection qui prendra la décision finale. Deux Français sont encore en lice dans le tournoi, Chan Akuzu et surtout Félix Lebrun, numéro 5 mondial, qui affronte le Kazakh Kirill Gerasimenko à 18h40. En judo, Teddy Riner est lui sur le tatami aujourd'hui à Dushanbe au Tadjikistan, 2 mois après sa victoire à Antalya. Il combat ce week-end. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de points pour remonter dans le classement mondial et aller chercher une des 8 premières places pour être tête de série aux Jeux Olympiques. Il est 9e actuellement. Pour Teddy Riner, tout s'est bien passé aujourd'hui. 2 victoires ce matin contre le Turc Erdoug et l'Allemand Kone, c'était en qualification. Puis un succès par Ripon en demi-finale contre le Russe Denis Batchaev. Rendez-vous donc cet après-midi pour la finale face au 6e mondial et local de l'étape, Temur Rakhimov.
Et on finit par une mauvaise nouvelle. Là, c'était une bonne avec Teddy Riner, mais mauvaise nouvelle, c'est l'équipe de France de basket 3-3. Les hommes ne sont pas qualifiés, à l'inverse des femmes. Mauvaise nouvelle, justement, dans cette course au quota olympique.
Oui, Jules Rambeau, Hugo Suar, Axel Vialaret et Lau Konaté participaient aujourd'hui au tournoi qualificatif d'Utsunomiya au Japon, mais ils se sont inclinés en demi-finale ce matin face à la Lituanie. Il leur reste une petite chance de qualification, un tournoi qui s'annonce sous très haute tension. Ce sera à Debrecen en Hongrie à partir du 16 mai prochain. Et tu le disais, l'équipe de France féminine est-elle déjà qualifiée depuis le mois de novembre dernier? On va terminer avec un petit mot de gymnastique puisqu'on a des championnes d'Europe. Colline Devillard est sacrée championne d'Europe de l'épreuve du saut de cheval à Rimini en Italie. C'est le 3e titre européen de sa carrière. À 16 ans, Mick Van Eyken prend le bronze sur cette même épreuve pour ses premiers championnats d'Europe. Et Marine Boyer, elle, termine 3e aussi, mais sur l'épreuve de la poutre. Place cet après-midi à 15h à l'épreuve par équipe où les Françaises, 3e lors des qualifications, viseront une médaille face notamment aux Italiennes et aux Britanniques.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, le journal olympique avec donc les dernières informations. Le Giro, c'est la 2e étape entre San Francesco al Campo et le Santuario di Europa. J'espère que je l'ai bien dit. Oh, tu as peut-être un meilleur accent italien que moi, Johan Bredov. Ouais, tu suis pour nous cette 2e étape.
Ouais, je pense pas avoir un meilleur accent que toi. 131 km encore avant l'arrivée. On a toujours les 5 mêmes hommes en tête, les 5 Italien, donc, qui montre le maillot, qui possède 3 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton, je te le disais, emmené par les Ineos Grenadiers, l'équipe de Geraint Thomas, l'équipe de Timena Rensman, mais surtout l'équipe du maillot rose, Jonathan Narvaez, le champion d'Équateur, qui s'est imposé hier, donc, sur la première étape, 3 minutes et 25 secondes d'avance pour ces 5 hommes. Mais voilà, l'explication, elle aura lieu en fin d'étape. Les 40 derniers kilomètres sont très rythmés parce que là, on est sur du plat. 40 derniers kilomètres avec 3 ascensions, 2 de 3e catégorie, pardon. Et donc, cette dernière vers le sanctuaire d'Europa, comme tu le disais si bien, Arnaud. Et celle-là va être très importante avec donc déjà, dès le 2e jour de course, la première arrivée au sommet.
Et ce sanctuaire qui est presque un monument dans la culture italienne du vélo, puisque c'était pas une remontada, c'était une rimonta de Marco Pantani il y a quelques années.
Ouais, il y a 25 ans exactement, c'est là que Marco Pantani avait réalisé un exploit dantesque sur cette ascension. Il avait eu un saut de chaîne dès l'entame de cette ascension. Il avait perdu du temps, presque 40 secondes sur les favoris, et
finalement il avait tout remonté grâce à son équipe. Il a été très lucide, Marco Pantani, pour remonter tout le monde. Il a remonté 49 coureurs pour s'imposer donc au sommet, sauf que on était en 1999 et une semaine plus tard, Marco Pantani a été contrôlé positif à l'EPO et ça a été le début de la descente aux enfers pour lui jusqu'à son décès tragique donc en 2004 à Rimini. Mais voilà, c'est vrai qu'on cette étape ravive le souvenir de Marco Pantani donc 25 ans après.
Et nos Français, Johan, on a vu hier Lilian Calmejean aux avant-postes. Et ouais. Finalement, c'est aussi peut-être un peu passé inaperçu. Alors, il était plutôt déçu, disant qu'il avait un peu manqué de jambes. Mais au final, Julien Alaphilippe n'a terminé qu'à 10 secondes du vainqueur du jour et de Tadej Pogacar.
Et bien surtout que quand Tadej Pogacar a décidé d'attaquer dans le San Vito, donc cette montée non répertoriée, 1,9 km avec 10% de moyenne, il y en a eu deux qui ont été capables de le suivre. Jonathan Narvaez, donc, qui s'est imposé au bout, et Julien Alaphilippe qui a tenu pendant quelques centaines de mètres avec ce duo infernal avant de craquer Julien. Mais ça montre aussi qu'il retrouve de l'envie, de l'élan. C'est surtout ça qui lui manquait, peut-être une petite fraîcheur mentale pour Julien Alaphilippe qui évidemment a connu de grosses difficultés ces derniers mois. Donc voilà, et au moins il se rassure, Julien Alaphilippe, il montre qu'il est au niveau. Il est évidemment pas au niveau de Tadej Pogacar, mais il y a de quoi faire sur ce Giro. Il y aura des étapes qui vont évidemment lui convenir.
Et en plus, on parlait de Lilian Calmejean, il a un maillot distinctif.
Oui.
C'est pas le maillot blanc à pois rouge, hein. Là, il est d'une couleur unie.
Oui, c'est ça, c'est le maillot bleu de meilleur grimpeur. Donc voilà, il a pas loupé sa course hier, Lilian Calmejean. Il a été longtemps en tête, il s'est échappé dès le début de la première étape. Il a pris des points très importants. Notamment au sommet du collier Maddalena. Donc voilà, il porte ce beau maillot distinctif. Un autre Français aussi porte un maillot distinctif, c'est Alex Baudin, le coureur de Decathlon AG2R, la Mondial Team, qui a terminé quatrième hier quand même. Belle performance pour lui. Et donc il porte le maillot blanc de meilleur jeune. Donc voilà, on a quand même deux Français avec deux maillots distinctifs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le seul bémol, Arnaud, et j'imagine que tu m'aurais relancé dessus, mais c'est Romain Bardet.
Mais oui.
Évidemment, Romain qui on l'attendait peut-être à meilleur niveau. On l'attendait pourquoi pas même sur le podium. Il y avait vraiment une carte à jouer. Et hier, il a craqué sur le collier Maddalena dont je vous parlais. Romain, l'Auvergnat qui a été en grande difficulté. Maintenant, il n'a concédé qu'une minute sur Tadej Pogacar et donc 40 secondes sur les autres outsiders. Pogacar, c'est une autre course. Ce qui compte, c'est les outsiders pour essayer d'aller chercher une place au général, un top 3 au maximum, un top 5, pourquoi pas. Mais voilà, Romain Bardet, on va le surveiller, surtout sur cette montée vers Europa, parce que c'est là qu'on va savoir si vraiment c'était un jour sans juste hier ou si c'est un peu plus profond que ça et que ça va être compliqué pour la suite du Giro. Mais on restait avec lui sur une deuxième place quand même, sur Liège-Bastogne-Liège, derrière Tadej Pogacar. Donc voilà, Romain Bardet, on y croit encore.
Merci Johan, tu restes avec nous donc pour cette deuxième étape du Giro et c'est arrivé en montée. L'Intégral Sport se poursuit sur RMC avec dans cette deuxième heure un invité de prestige, j'ai envie de dire, c'est l'entraîneur du Stade Brestois, Éric Roy, qui sera avec nous. Match nul hier face à Nantes 0-0, mais Brest qui continue de s'accrocher au podium et qui continue aussi de faire une saison remarquable. À tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Sport sur RMC. Désormais place à notre heure football et on accueille avec grand plaisir coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
On va revenir sur la Ligue 1. Vous le savez, aujourd'hui, pas de match en ce 5 mai en mémoire aux victimes du drame de Furiani il y a 32 ans. On va débriefer les matchs d'hier et puis aussi se projeter sur les matchs qui nous attendent, hein, sur cette journée morcelée. Et on aura un invité de prestige, Éric Roy, le coach de Brest. Le Stade Brestois tenu en échec par Nantes hier 0-0, mais qui continue de s'accrocher au podium. C'est aussi un coach, mais aussi ton ancien joueur.
Ben oui, avec un super souvenir.
Et on parlera peut-être d'un beau souvenir parce que je me souviens qu'il était buteur d'un certain match qui est resté dans les mémoires de tout le monde. Un certain Marseille-Montpellier, je te vois froncer les sourcils.
Oui. Je me rappelle même le but, comment il a marqué.
Et oui, parce qu'il n'en a marqué pas souvent quand même, Eric. Hein.
Ben non, compte tenu de son poste, c'était un petit peu le numéro 6 devant notre défense. Et un joueur pratiquement indispensable, même si paraît-il, il n'y a pas de personne indispensable. indispensable. Mais lui, c'était un petit peu l'automatisme avec Laurent Blanc qui montait d'un cran quand nous avions le ballon et Eric qui restait là pour faire l'équilibre parce qu'il était capable de jouer à ces deux postes.
Et dans un petit quart d'heure, il sera donc notre invité. Vous aurez le loisir d'échanger ensemble sur RMC. On évoque la lutte pour les places européennes. On évoquera un peu plus tard la lutte pour le maintien où ça se décante aussi. On accueille Valentin Jamin de la rédaction. Salut Valentin.
Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous.
Juste
salut,
avant Valentin. D'évoquer notamment Monaco, tu étais au commentaire de ce Monaco Clermont coach sur ce drame de Furiani. Vous savez, cette date du 5 mai est sacralisée. On ne joue pas de match de football en France. D'ailleurs, il y a des commémorations comme chaque année juste devant, avec cette stèle devant le stade de Furiani. Une délégation de l'Olympique de Marseille a fait le déplacement. Pablo Longoria, comme l'an passé, est présent pour assister à la cérémonie en hommage aux victimes. On rappelle 19 morts, 2357 blessés et un traumatisme à vie pour beaucoup lors de ce match entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Coach, évidemment, tu étais en activité en tant que coach. Tu venais à peine de raccrocher les crampons pour ta carrière de joueur, de club et une région que tu connais forcément, et ça a marqué, ça a été un traumatisme vraiment pour les personnes qui l'ont vécu, mais pour tout le foot français aussi. Toi, tu as un souvenir précis?
Complètement, dans le sens que c'était un match plus qu'important, une demi-finale de Coupe de France, où d'ailleurs, après la catastrophe, ce qui était tout à fait logique, il n'y a pas eu de finale de Coupe de France, malheureusement. Et c'est vrai que je me rappelle, parce que le lendemain, il y avait un Monaco Werder de Brême au stade de Benfica, et nous étions allés avec Alain Afflelou pour voir un match où Monaco était l'ombre de lui-même, certainement et logiquement traumatisé par ce qui s'était passé la veille.
Et Monaco, c'était une finale de Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe. Certains ne l'ont pas connu, c'est ce qu'on appelait la C2 à l'époque.
C'est la Coupe, elle fait la finale que le Paris Saint-Germain a gagnée.
Absolument, gagné. C'est en 96.
Coupe qui n'existe plus.
Qui n'existe plus, victoire contre le Rapide de Vienne pour les Parisiens en 96. Et la Coupe de l'UEFA aujourd'hui Europa League est dénommée la C3 et la Conference League la C4. Messieurs, parlons donc de cette course au podium avec Monaco hier qui s'est imposé face à Clermont. Valentin, c'était sous tes yeux, coach évidemment, tu as aussi regardé ce match, des monégasques solides, et on a retrouvé un super Ben Yedder et un Mbolo qui est vraiment le facteur X de cette fin de saison pour les monégasques, Valentin.
Oui, c'est vrai que Mbolo revient à point nommé puisqu'on rappelle qu'en fait c'était sa première titularisation contre Clermont. Il avait joué les trois matchs précédents, mais en entrant en jeu, il revient d'une rupture d'un ligament croisé, donc il n'a pas joué de la saison. Monaco n'a pas pu s'appuyer sur sa doublette Ben Yedder Mbolo, et donc pour ce sprint final, c'est vrai que ça tombe à pic pour Adi Hütter, notamment aussi parce que Golovin est blessé, donc ça fait un atout en plus, le retour de Brel Mbolo qui a marqué hier son premier but, doublé également d'Wessam Ben Yedder qui avait déjà marqué un doublé face à Lyon, donc il est sur 4 buts en 2 matchs. Tout ça pour dire que la dynamique en attaque des Monégasques, elle est très impressionnante. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure de Ligue 1, sans parler de Minamino qui hier met un bijou. Donc on a quand même l'impression qu'effectivement, avec cet effectif, avec ce calendrier, parce que c'est déplacement à Montpellier et réception du FC Nantes pour la fin pour l'AS Monaco, c'est quasiment tout droit pour au moins le podium, peut-être la deuxième place. Mais effectivement, le retour d'Mbolo fait beaucoup de bien aussi dans le système d'Adi Hütter.
Qui dit FC Nantes dit Pierre-Yves Leroux, qui nous a rejoint, pas pour parler tout de suite du FC Nantes, mais du Stade Brestois dans un instant. Salut Pile.
Salut Arnaud, bonjour à tous. Salut,
tu vois, on dit Nantes, salut, hop, il rapplique.
Ouais, c'est pas pour parler élargie, Ligue des Champions. Ouais.
Voilà, exactement. Coach, sur cette équipe de Monaco, avec Minamino exceptionnel hier, qui est présent en l'absence de Golovin.
Voilà, absolument. Ça reste, malgré les absences, les blessures, et par moments les suspensions, les retours de blessures graves, ça reste quand même un effectif extraordinaire dans une saison où, quand je les vois second, je trouve ça tout à fait logique. Donc on regarde un petit peu le nombre de points second sans avoir une moyenne de 2 points par match, dans un calendrier où cette année, malheureusement pour Monaco, le mardi, le mercredi et le jeudi, ils étaient devant la télé pour voir les rivaux français jouer en Coupe d'Europe. Donc ils ont su profiter un petit peu de ce parcours, mais je pense sincèrement qu'il aurait pu y avoir mieux du côté de Monaco, avec un Monaco un peu plus près du Paris Saint-Germain.
4 points d'avance pour l'AS Monaco sur le Stade Brestois, 3e option clairement prise pour cette position de dauphin pour les Monégasques. Lille peut être toujours en embuscade, voilà, avec un match en retard. Ils sont à 6 points, les Lillois des Monégasques.
Mais demain contre Lyon. Un match intéressant contre cette équipe de Lyon, qui n'est pas du tout un cadeau à rencontrer en ce moment. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a eu ce 4-1 de Lyon, avec un petit peu, allez, une première mi-temps catastrophique et une idée de Sage que j'ai trouvé très compétente depuis son arrivée à la tête de ce club. Mais là, ce jour-là, ben, il n'est pas trop inspiré. Il quitte son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 avec 4 joueurs offensifs d'entrée. C'était pour surprendre. Ben, je crois que ça n'a pas surpris. Donc, cet échec-là, mais quand même, cette équipe de Lyon, on l'a vu contre Monaco, cette équipe de Lyon, redoutable pour tous les matchs qui restent, y compris la finale de la Coupe de France. Donc tout le monde voit Lille demain. Oui, Lille est très bon aussi, mais il faut les battre, c'est Lyonnais, c'est pas simple.
C'est un faux neuvième, clairement, ces joueurs de l'Olympique Lyonnais, et sur la deuxième partie de saison, un bilan, ils ont pris le même nombre de points que Monaco avec un match en moins pour les Lyonnais, et même s'ils gagnent demain, ils auront tout simplement le meilleur bilan sur la phase retour devant le Paris Saint-Germain. C'est clairement une équipe totalement différente, mais ça on le savait sur cette deuxième partie de saison. On descend le classement, évidemment un mot des Brestois, on aura Eric Roy avec nous dans un instant, Pierre-Yves, pas que ça coince, mais c'est vrai que là, la fin de saison, on a vu deux joueurs blessés. On tentera d'avoir des nouvelles de Pierre Lesmelou et Romain Del Castillo. Match nul hier face à Nantes 0-0. On sent que, certes, l'Europe sera, quoi qu'il arrive, au bout, mais à savoir quelle Coupe d'Europe.
Oui, tout à fait. Je regardais parce que j'avais un petit peu oublié le parcours complet de Lille, et je me rends compte que ces Lillois, ils ont jamais été sur cette troisième place et qu'ils ont la possibilité pour la première fois, et j'ai envie de dire au bon moment, d'atteindre ce strapontin des trois places avec une qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc la lutte, elle est rude et elle va encore être difficile sur ces deux dernières journées avec, comme tu le dis quand même, on l'a vu avec ce match qu'on a partagé hier à l'antenne avec Roland, une équipe brestoise qu'on sent un petit peu à bout de course quand même, un peu fatigué avec ses deux blessures.
Ce qui est un peu logique, et ces deux joueurs, bon, tous les joueurs sont importants, mais ces deux joueurs-là, ils sont quand même très importants.
Oui, et en fin de match, en zone mixte, hier, Pierre Lesmelou disait qu'il était vraiment très inquiet. Ça allait bien pendant les 10 premières minutes. Il y avait des bonnes sensations à l'échauffement par rapport à sa blessure au mollet. Il avait été très peu utilisé dans la semaine. Il s'était quasiment pas entraîné du tout même. Et puis, au bout de 20 minutes, il a senti que c'était pas la peine et qu'il pouvait plus du tout accélérer. Ça s'est aggravé finalement, cette blessure. Et il a le sentiment qu'il va pas pouvoir revenir pour la fin du championnat. La semaine prochaine, c'est quasiment sûr. Le dernier match, c'est peu probable. Et puis, Romain Del Castillo est un peu dans la même situation. Donc, ce sont deux éléments clés du Stade brestois qui pourraient vraiment manquer dans cette dernière ligne droite très importante.
On rappelle avec ce match contre Brest à domicile, mais les Brestois, dans un premier temps, ils vont quand même bien regarder ce qui va se passer demain entre Lille et Lyon.
On rappelle le point sur le classement. Donc, les Brestois sont 3e avec 57 points. Ils ont 4 points de retard sur Monaco, qui est 2e et qui a le même nombre de matchs. Ensuite, Lille est derrière, 2 points de retard sur les Brestois, mais avec ce match contre Lyon demain. Donc, Lille peut passer devant le Stade Brestois, effectivement. Et on n'oublie pas non plus l'OGC Nice, 5e, qui est à 6 longueurs. Et là aussi, il y a un match en retard pour les Aiglons contre le Paris Saint-Germain. Donc, ça reste encore à être déterminé pour les Brestois, sachant qu'on rappelle que les 3 premiers vont directement en phase de poule de Ligue des Champions et que la 4e passe par un barrage. C'est une nouvelle formule l'année prochaine, le 5e Europa League et 6e la Conférence League. Justement,
voire
7e, effectivement, si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, là on décalerait tous 7e Conférence League, 5 et 6 Europa League. On accueille au 32-16 Eric, supporter lillois. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tous.
Salut Eric.
De Lille.
Tout simplement, Lille Intramuros.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça peut être une petite commune à côté, Marc-en-Barœul, Ouascal, Roubaix, on ne sait
Madeleine,
pas.
La Madeleine.
La Madeleine, voilà. Juste à côté, effectivement, de Lille. Eric, est-ce que tu es confiant, Pierre-Yves, notre correspondant en Bretagne, élargi, parce qu'il est à Nantes, effectivement, Pierre-Yves, est-ce que tu crois à cette troisième place, Eric? C'est vrai que les Lillois n'ont pas été sur le podium cette saison, mais ils ont quand même un peu le vent en poupe.
Oui, parce que il y a plusieurs signes qui sont positifs. C'est que Brest va plus mal, que Lille a déjà eu le goût de l'échec l'année dernière avec cette place qu'on perd à un point à la dernière journée. Donc le groupe, il a déjà connu en fait l'échec de la Coupe d'Europe. C'est pour ça qu'on a joué la Conference League aux dépens de Rennes l'année dernière. Le bémol, c'est Benjamin André qui sera pas là contre Lyon. Mais apparemment, Fonseca a dit qu'il voulait déjà s'entraîner alors qu'il n'est pas prêt. Donc vraiment, on a une équipe de guerriers avec une bonne mentalité. On est sorti aussi de la période Aston Villa avec tous les gros matchs, Monaco et tout ça. Donc, ça fait quelques temps que l'équipe peut se reposer. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que Lille prenne une équipe à domicile, même si c'est Lyon. J'avoue que j'aurais préféré probablement n'importe laquelle, à part Paris, sur ce match-là. Mais là, il faut tout donner, il faut y aller. Et en fait, c'est facile parce qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut gagner. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de calcul, il faut tout donner.
Lille-Lyon. Nantes, Lille et Lille-Nice. Voilà le programme. Eric et coach, est-ce que tu es d'accord avec Eric, notre supporter lillois, sur ce côté dynamique qui est plutôt du côté des Lillois? Et puis la profondeur d'effectifs, on parlait des Brestois qui ont quelques blessés. Là, Paolo Fonseca, il a aussi un effectif beaucoup plus armé pour cette troisième place.
Oui, sur ces dernières semaines, c'est vrai que quand on voit le résultat d'Aston Villa contre Olympiakos et qu'on voit qu'est-ce qu'il a manqué à Lille, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose de ce but stupide à la 87e ou 88e minute, on peut avoir des regrets. Mais bon, la saison, elle est bonne quand même. Donc cette équipe de Lille reçoit pour moi une équipe qui est vraiment pas un cadeau. Et ce match de demain, je l'attends avec impatience parce que premièrement, il n'est pas encore gagné sûr, et deuxièmement, on va voir ce qu'est capable de faire Lyon.
Tu penses, Eric, qu'il faut pas manquer l'occasion demain, parce qu'il restera que deux matchs derrière aussi, et que si Brest reste devant avec ses deux points d'avance ou peut-être un peu moins, c'est peut-être le train qui va passer sous le nez des Lillois s'ils ne le prennent pas.
Au-delà de ça, moi je pense qu'il faut leur mettre la tête au fond du seau. C'est-à-dire que Brest, en gros, je pense qu'ils sont vachement émoussés. Enfin, moi je me mets à la place d'un joueur de Brest. T'as fait nul contre Nantes, t'as perdu deux de tes joueurs majeurs. Il faut psychologiquement, tu vois, c'est comme au tennis, t'as fait une double faute dans le tie-break, il faut direct aller leur mettre la tête dans le seau, donc faut aller gagner contre Lyon. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut tout donner jusqu'à la dernière minute et tout ça, pas prendre de but, mais à la maison ça va. J'ai moins de problèmes parce que même quand on joue mal à la maison, on s'en sort bien. Donc moi je pense que c'est là, il faut y aller, il faut dérouiller Lyon, il faut le couteau entre les dents, il faut leur faire peur dès les premières minutes. Que les mecs se disent, si on déconne, on va pas pouvoir jouer la finale de Coupe de France. Et voilà quoi, il faut prendre le match. Donc ouais, positif.
Coach.
Ouais, on est d'accord, mais je te dis, c'est un bon test quand même, parce que les Lillois sont difficiles à rencontrer, c'est pas un adversaire amusant, mais Lyon non plus. Donc ce match-là, je trouve que c'est un match très passionnant et très indécis.
Un mot sur Nice, messieurs, avant d'accueillir dans quelques minutes Eric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, et d'évoquer la lutte pour le maintien. Les Niçois, ça va quand même un petit peu mieux. Ils sont quand même en embuscade. Ils se sont remis la tête à l'endroit après une période un petit peu plus compliquée. Coach, ils ont gagné Strasbourg. Il y a ce match nul contre Marseille, la victoire contre Lorient à domicile. Leur calendrier, ils vont recevoir Le Havre. Ensuite, réception du Paris Saint-Germain en semaine. Et ils finissent par un Lille-Nice. On rappelle 4 points d'écart entre Lille et Nice. Ils sont 5e. Ils ont 2 points d'avance sur Lens, 6e, et un match en plus. Donc les Niçois sont aussi dans une position vraiment de poil à gratter.
Ils vont recevoir quel Paris Saint-Germain? Parce que ça, et pour moi, c'est un élément clé de cette fin du championnat pour un certain nombre de matchs, quand même. Que ça soit pour le maintien, pour la Coupe d'Europe, c'est quel Paris Saint-Germain va jouer. Ça, c'est une question qu'il va falloir soulever quand même.
Oui, un Paris Saint-Germain que Nice peut très bien accrocher. Alors après, sans faire des pronostics, on a suffisamment d'émissions pour en parler de tous les matchs. Mais que Nice puisse accrocher Paris Saint-Germain et prendre au moins un point, c'est pas impossible du tout. Comme tu le dis, quel Paris Saint-Germain Nice rencontrera.
Avec au-delà du Paris Saint-Germain, l'enjeu de la qualification ou non pour la finale de Ligue des Champions, un PSG qui aura joué le dimanche contre Toulouse et qui rejouera Nice le 15 mai. Voilà pour ce match décalé. Donc aussi, quand on sait que Luis Enrique fait du turnover, il y a à la fois la dimension mentale, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas qualification contre Dortmund, ça peut mettre un coup sur la tête des Parisiens, et puis le turnover que peut proposer le coach parisien. Merci beaucoup Valentin. Tu reviens tout à l'heure pour parler de la montée. Pile, Pierre-Yves, tu restes avec nous puisqu'on va accueillir Éric.
Salut Valentin.
Et donc tu pourras poser des questions au coach brestois. Coach, évidemment, tu ne bouges pas, tu es un titulaire indiscutable de l'Intégral Sport cet après-midi. Et nous, on passe au défi hippique à 14h20. Avec Fred Kita, salut Fred.
Salut Arnaud, salut à tous. Effectivement, c'est le défi hippique avec un quintet qui est programmé à 15h15 aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. Il y a un nom partant, le numéro 12. Ils seront donc 15 galopeurs à s'affronter sur 2100 mètres, tous âgés de 4 ans. Notre parieur nous a donné son cheval hein, sur Twitter. Il a choisi le numéro 2, Alisto King. Alisto King, hein, c'est le favori à l'heure actuelle. Il choisit par les parieurs. Alisto King, il a effectué une bonne rentrée. Il est monté par Maxime Guillon, qui est simplement le jockey qui a gagné le plus grand nombre de courses depuis début de l'année. En tout cas, c'est le choix de notre parieur aujourd'hui, Thomas. Et nous, on va lui opposer dans cette compétition le numéro 8, Goldie Way de Saint-Ouen. C'est un concurrent qui a effectué une mauvaise rentrée, mais il avait besoin de courir pour reprendre son meilleur niveau. Il est monté par Stéphane Pasquier. C'est le jockey qui est recordman de succès dans les quintets plus, donc il est capable de refaire parler de lui. On va rappeler la règle. Hein. Si le cheval du parieur, le numéro 2, Alisto King, termine devant le numéro 8, Goldie Way de Saint-Ouen, il sera de nouveau avec demain. On lui souhaite bonne chance et un bon quintet à tous.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un point sur la deuxième étape du Giro en Italie. Johan Bredov, c'est encore le premier bon tiers de cette course.
Exactement, la première moitié de course qui est toute plate. C'est tranquille là pour les coureurs. 110 km encore avant l'arrivée et cette dernière montée vers le sanctuaire di Europa. 4 minutes et 17 secondes d'avance. Donc pour les 5 mêmes hommes en tête, Scaroni, Piccolo, Baez, Fiorelli et Marcelluzzi, les 5 Italiens donc qui sont devant pour l'instant.
A tout de suite Johan, l'Intégral Sport revient dans un instant avec coach Courbis et notre invité Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois. A tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
Jusqu'à 15h avec coach Courbis. À 15h, ce sera l'Intégral Rugby pour l'événement de la journée, cette demi-finale de Champions Cup Toulouse contre les Harlequins. Christophe Cessieux, Yann Delegue, la belle Dream Team, quasi Coupe du Monde hein, pour vous faire vivre eh bien, ce match, cette demi-finale importante pour Toulouse qui peut rejoindre le Leinster en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Mais comme promis, coach, on accueille un de tes anciens joueurs, un entraîneur à succès, puisque c'est Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, troisième, qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour les amis, comment ça va?
Salut Eric. On attendait avec impatience de t'avoir pour te féliciter, pas particulièrement pour le match d'hier, encore que bon, par moment c'était quand même pas mal, mais surtout pour ce parcours qui est tout simplement extraordinaire. Donc,
Écoute, ouais, c'est gentil, c'est vrai que pour le Stade Brestois 29, être dans cette position à deux journées de la fin, c'est vrai que c'est presque un petit peu surréaliste, quoi. Mais bon, on se focalise plus là-dessus maintenant qu'on a assuré cette cinquième place. On aimerait terminer le plus haut possible. Mais je crois qu'il n'y a pas que nous, en fait, qui veut terminer le plus haut possible. C'est ça le problème.
Voilà. C'est vrai que la concurrence est rude. D'ailleurs, comment, peut-être déjà votre sentiment aujourd'hui, voilà, après ce match nul 0-0, peut-être amer parce que c'était à la maison et on a toujours envie de faire plaisir au public. Et puis on l'évoquera peut-être aussi, voilà, l'effectif. Il y a eu des joueurs sortis sur blessure. Il y a un petit goût amer aujourd'hui.
Bah oui, forcément, parce que c'est vrai qu'on a préparé ce match comme tous les autres pour essayer de le remporter. Après, je suis avec Antoine, qui est un bon ami, allait venir pour bien sûr. Aller venir chercher des points parce qu'ils en avaient besoin et qu'ils jouent leur survie, leur maintien. On connaît bien ça. On était dans leur position il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on s'attendait à un match compliqué. Il l'a été. On a eu le match qu'on attendait. Par contre, ce qu'on attendait moins, nous, forcément, c'est d'avoir des garçons qui sont importants pour nous et qui doivent sortir au bout de la 20e, au bout de la 40e. Déjà, comme tu sais, Roland, dès que tu fais deux changements dans la première mi-temps, t'as plus qu'une possibilité de faire un nouveau changement. En deuxième, donc ça te limite aussi les choix et c'est tout, ça nous a affaibli parce que c'est vrai que Romain Del Castillo par exemple était évident que pour nous dans les 20-30 derniers mètres, c'est souvent un joueur qui fait des différences et là c'est vrai qu'on a manqué un petit peu et de fraîcheur et je pense aussi de qualité offensive, dans l'animation offensive pour mettre ce bloc équipe nantais très compact en difficulté.
Ouais, mais c'est sûr que je ne vais pas t'apprendre, hein. Je vais simplement le signaler que le sprint final, après la saison que vous venez de faire, ben, tu y laisses quand même des plumes sur le plan nerveux. Quand je vois le scénario des derniers matchs, celui de Lyon à Lyon, le 4-3, après le 5-4, même le 4-3 contre Metz, c'est un sprint final qui ne ressemble pas complètement à la solidité que vous avez eue tout au long de cette saison. Et hier, il y a quand même eu les Nantais qui ont eu 3-4 occasions finalement. Le match nul et prendre les 4 points sur les deux derniers matchs, ben c'est pas mal du tout, je dirais même que c'est très bien.
Ouais, mais tu as raison. De toute façon, il faut aussi être capable d'avoir, de prendre un peu de hauteur et d'analyser. Je pense par rapport au fait que hier, du coup, on n'avait pas les armes, tout simplement, par rapport aux événements de match, aux événements contraires un peu dans ce match-là. On n'avait pas les armes, tout simplement. Et c'est vrai que, comme tu le sais bien, quand tu n'arrives pas à gagner un match, il faut arriver à ne pas le perdre.
Oui.
C'est ce qu'on a réussi à faire avec ce 0-0. Ce qui est bien aussi, si on veut regarder le côté positif, c'est quand on refait un match avec un clean sheet, ce qui nous est arrivé depuis un moment.
Alors puis que, le Havre, oui.
Comme tu l'as dit,
Lorient, pardon, Lorient.
Avant les épisodes du 4-3, des deux fois 4-3 et du 5-4, on était meilleure défense du championnat. Donc c'est vrai que ça ressemblait pas à ce qu'on produisait, mais en même temps, dans ces matchs-là, on avait eu aussi une efficacité et en même temps une capacité à produire du jeu et à se créer beaucoup d'occasions, donc avec des buts à l'arrivée. Donc voilà, c'était un peu paradoxal, mais c'est vrai, comme tu le dis, le sprint final est toujours compliqué parce que tout le monde, en plus dans notre championnat, pratiquement tout le monde joue quelque chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous, mais ce sera peut-être compliqué aussi pour les autres, on verra bien.
Éric Roy, le coach du Stade Brestois, est notre invité. On est toujours avec Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, qui était au commentaire de cette partie. Une question, Pierre-Yves.
Bien, Eric, moi j'ai souvenir aussi d'être en conf de presse le 7 janvier 2023 après votre premier match à Avranches en Coupe de France. À ce moment-là, Brest est 17e. Ça paraît être hier parce que voilà, c'est un tout petit peu plus d'un an finalement. Quel est pour vous l'élément capital qui vous amène aujourd'hui à être tout en haut du classement de Ligue 1?
Ouais, l'élément capital, je pense que c'est la confiance, tout simplement. Je crois que quand tu arrives dans un effectif qui est touché parce que le bilan comptable est compliqué, parce que tu gagnes peu de matchs, que tu vois pas un petit peu le bout du tunnel, comment tu vas pouvoir t'en sortir. Et ce qui est capital pour un entraîneur quand il arrive, c'est de restaurer un petit peu ça. Roland connaît bien ça. Arriver à recréer du lien, arriver à recréer quelque chose avec les joueurs et après construire sur des bases déjà solides. Moi, si tu étais là, je pense que dans mes premiers discours, c'est déjà de retrouver une stabilité défensive. Et c'est vrai que quand tu veux construire une maison, tu pars toujours un petit peu des fondations et les bases et les fondations dans le football, ça reste malgré tout.
Je pense aussi que la construction de cet effectif, compte tenu des moyens limités que vous avez, n'a pu être fait que par des gens compétents qui attache beaucoup d'importance à la complémentarité. Et donc, ce groupe de joueurs, s'il n'y a pas de blessés, je parle des 16, 17 joueurs importants de cet effectif, ben pour moi, je félicite toi, évidemment, et aussi Greg Lorenzi, d'avoir construit ce groupe avec ces moyens-là. C'est tout simplement extraordinaire. Donc, bravo à tous les deux. Et je sais très bien que vous n'êtes pas que deux, mais les deux plus importants, plus votre président, et qui arrive quand même à vous faire confiance, et il a bien raison. Donc je trouve que ça donne un petit peu l'espoir à tous les clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens.
c'est vrai. Non, mais on en a parlé avec Antoine, notamment. Après le match, il dit ce que vous faites, c'est bien, mais justement, ça prouve que pourquoi pas nous, on ne serait pas capable l'année prochaine, avec notre effectif, de faire aussi bien, quoi. Donc c'est vrai que ça doit donner des idées, forcément. Et en tous les cas, on n'espère pas trop, parce que nous, on a envie de rester là-haut. Et on a envie, malgré tout, l'année prochaine, pourquoi pas, de pouvoir enchaîner une bonne saison, même si elle sera tout autre et que, quoi qu'il arrive, on sera sur la scène européenne. Et ce qui fait, du coup, une saison complètement différente et j'allais dire même un métier complètement différent.
Oui, avec, bon, évidemment, les semaines qui sont moins reposantes quand il y a les semaines avec les Coupes d'Europe.
Mais Eric, ça vous choque donc, pas du justement coup, d'entendre comme certains disais, commentateurs
du coup, beaucoup de travail pour Greg à l'intersaison.
Ah ben oui.
Grégory Lorenzi, Pierre-Yves.
Eric, justement, ça vous choque pas justement d'entendre certains commentateurs dire voir Brest en Ligue des Champions, c'est pas bon pour le football français?
Bah, c'est pas que ça me choque pas, c'est que ça m'attriste en fait un peu, parce que j'ai l'impression que voilà, si on est là, c'est que je pense qu'on l'a mérité. Et puis après, quand les gens disent oui, mais c'est un championnat fait parce que les autres sont pas au rendez-vous, bah c'est pas notre problème en fait. Si les autres sont pas au rendez-vous, c'est plutôt leur problème à eux. Donc oui, c'est un peu décevant, c'est un peu triste, mais ouais, en même temps, c'est la réalité. C'est la réalité.
Bon, je te dis un
et
truc.
C'est vrai qu'il y en a qui préféraient qu'il y ait des grands clubs avec des grands stades.
À la limite, quand on est Brest, on s'en fout de ces commentaires. Et il y a une petite idée pour répondre, c'est que il y a un Brest aussi en Espagne.
Gironde,
s'appelle Gironde.
Bon, il n'y a pas le City Group à Brest, je ne crois pas.
Et là aussi, non, Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, Real Sociedad. Eh ben, il y a Gironde qui s'est glissé au milieu, du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis tout simplement bravo. Et au lieu de dire que c'est triste pour le football français, essayez de faire aussi bien avec d'autres moyens. Donc, ça voudra dire qu'on va mettre en place des effectifs et des équipes redoutables.
Et quand on aime le football, on est toujours un peu romantique. Et comment ne pas tomber sous le charme de Brest, à l'image peut-être aussi de Lens cette saison. Pas tout à fait non plus les mêmes moyens, mais on peut que se réjouir de voir que, coach, tu le disais, quand on travaille bien sur et en dehors du terrain, on a le droit d'être récompensé. Eric, justement, on parle de récompense. Les nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 1, il y a beaucoup de débats, on en a fait un sur RMC. Doit-on juger le mérite ou les résultats? Alors c'est compliqué évidemment de parler de soi pour un trophée individuel, mais est-ce que vous estimerez logique quelque part de l'avoir, ou Luis Enrique, qui est champion avec aussi de la marge, le mérite tout autant?
Bon, je sais pas, c'est pas à moi à répondre à ça.
Moi je peux répondre et te faciliter la tâche, puisque c'est sûr que c'est pas facile de répondre à cette question. Mais pour moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas réflexion une seconde. Que quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu as justement la chance d'avoir cet effectif-là, ben il est quand même logique que tu puisses faire de bons résultats. Mais faire les résultats de Brest avec les moyens de Brest, mais comparons ce qui est comparable. On ne peut pas comparer ça avec Paris Saint-Germain.
Ben, merci Roland. Après bon, pour vous raconter une petite anecdote, les trois fois où j'ai rencontré Luis Enrique, il a été à chaque fois dithyrambique dans les petits instants d'échange qu'on a eu, en nous disant que ce qu'on faisait c'était fantastique, qu'il nous félicitait, que même quand on a perdu le premier match aller à domicile, à la fin du match, il m'a dit sincèrement on ne mérite pas de gagner. Ils avaient gagné au dernier moment, à la dernière seconde,
avec l'échappée de Mbappé. Oui.
Voilà, donc bon, il a toujours été très prévenant et très et moi. Personnellement, je l'ai mis dans mes trois, hein, parce que c'est vrai que je considère aussi que, quoi qu'il arrive, quand on gagne un championnat, c'est normal qu'on soit au moins dans les trois, parce qu'on nous demande de nommer trois entraîneurs. Donc moi, je l'ai mis dedans, voilà, par exemple. Après, qui est le plus méritant, c'est pas à moi de le dire, c'est Roland s'est positionné. Et puis
après, mais en plus de ça, sans chauvinisme, et rien à voir avec l'affection et les agréables souvenirs que j'ai de t'avoir eu comme joueur, non, pour moi, il sera tout à fait logique, parce qu'à travers Eric Roy, tu récompenses tout simplement le stade Brestois.
Tu fais une distinction. Justement, avant de parler de vos années marseillaises, d'évoquer quelques souvenirs sur l'antenne de RMC, Pierre-Yves, une question un peu sérieuse, parce qu'on parle de Coupe d'Europe et on parle aussi d'infrastructures et de stades.
Quand est-ce qu'on saura, Eric, où jouera Brest la Coupe d'Europe? Est-ce que vous savez comment ça évolue, les discussions avec la municipalité, etc.?
Alors, moi, pas du tout, parce que je m'occupe pas du tout de ça. Je suis un petit peu focus sur justement mon sprint final, et c'est vrai que c'est un peu plus Greg et forcément la direction du club qui bosse sur ces sujets. Voilà, il sera bien temps de s'en occuper quand le championnat sera terminé. Mais aujourd'hui, aucune info à vous donner à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un petit peu ralent parce qu'on se dit tiens, donc en France on est capable et on considère que la sécurité est suffisante pour jouer le championnat de France, un match de football, et donc ce serait pas suffisant pour des matchs de Coupe d'Europe. Je sais pas, peut-être que les matchs de Coupe d'Europe sont pas vraiment des matchs de football, c'est peut-être un sport différent, j'en sais rien. Mais bon.
Voilà. Ouais, ça, ce sont évidemment les parties un peu administratives où on peut un petit peu déchanter. Pour conclure cette interview, on est obligé d'évoquer vos années marseillaises, messieurs, entre 97 et 99. Beaucoup de souvenirs, coach et Eric ensemble.
Oui,
il y a un match évidemment en 98. Toi, t'arrives en 97, coach, et Eric est là.
Oui, mais bon, ouais. En ce qui concerne, c'est cette saison et cette période, ça a failli être pour moi des souvenirs extraordinaires, mais non, de ceux qui auraient pu être extraordinaires, j'ai pas de bons souvenirs, et notamment je rêvais de faire une finale de Coupe d'Europe et même une Coupe UEFA qui était pour moi nettement supérieure à l'Europa League d'aujourd'hui. Quand je me rappelle les 5 joueurs qui me manquaient, notamment Eric, Galas, Luxin, Ravanelli, Dugarry, contre une équipe de Parme monstrueuse, mais j'aurais quand même aimé, par curiosité, les rencontrer avec une équipe au complet. Quand je vois de quelle façon on perd notre le titre de champion de France d'un point, bon, c'est une période, évidemment, qui me reste comme souvenir, mais comme souvenir, par moment même cauchemardesque. Quand je pense que la finale de la Coupe UEFA se fait à Moscou, ben moi qui suis toujours un petit peu taquin, moqueur et chambreur, je dis pourquoi pas à Tokyo. Donc et quand tu vois la moitié du stade vide, c'est cette formule, moitié vide à moitié plein, non, c'était moitié plein. Et donc il manquait une partie. Donc voilà. Donc mais par contre le souvenir
avec Eric, oui.
Le souvenir de ce groupe-là, avec notamment en plein milieu de notre organisation Eric qui compensait les montées de Laurent Blanc parce qu'il était capable et suffisamment intelligent dans le jeu pour être en même temps numéro 6 et arrière central. Donc Laurent Blanc, ça c'était prévu dans notre mécanisme. Laurent Blanc monté, Eric resté, et chaque fois nous avions l'impression, quand je dis chaque fois peut-être pas, mais très souvent, d'avoir un joueur de plus dans la construction de nos attaques. Et ça, évidemment, que ça m'est resté gravé. Ça fait partie des bons souvenirs.
Éric, les souvenirs, si on couvrait les montées du président, c'est qu'on était vice-président ou premier ministre, non?
Non, mais je suis un peu les mêmes. J'ai un peu les mêmes sensations que Roland. C'est que moi déjà, personnellement, les deux derniers mois de cette saison-là, quand on est en finale de la Coupe d'Europe. Les deux, trois derniers mois, je suis gêné par une blessure au genou que le staff médical n'arrive pas à déceler. Et c'est vrai que ça m'empêche de jouer. C'est certainement les trois mois où j'étais le plus triste dans ma carrière. Et ce qui était paradoxal, parce qu'on jouait le titre et en même temps, on jouait cette finale de Coupe d'Europe. Donc, c'était vraiment très décevant pour moi parce que quand tu ne peux pas participer, tu as l'impression d'être inutile. Tu as l'impression de lâcher aussi tes partenaires, ton entraîneur. Donc, ça a été un moment très difficile, certainement le moment le plus difficile de ma carrière. Après, c'est vrai qu'on avait une équipe très très forte, et c'est vrai que moi j'étais blessé, donc pas parti pour la finale, mais on n'oublie pas que les autres étaient suspendus parce qu'il y a eu cette bagarre générale à Bologne en demi-finale qui nous avait effectivement privé de 5 autres titulaires. Donc c'est vrai que ce match-là, contre une équipe de Parme très forte, on n'aurait peut-être pas gagné, mais en tous les cas, avec l'effectif complet, c'est évident que je pense sincèrement qu'on aurait une autre chance. Donc voilà, ça c'est,
c'est comme ça.
Une grande déception. Et on fait pas les choses. Et puis après, les souvenirs malgré tout de Roland, on a parlé d'un 5-4 récemment. On est obligé de se remémorer du 5-4. Moi, je crois que je suis peut-être abonné à ces scores aussi. J'ai vécu le 5-4 à domicile.
Avec le quatrième buteur, c'était Eric.
Ouais, c'est ça, le quatrième buteur. Mais surtout d'être mené, alors pour l'anecdote, peut-être qu'ils l'ont déjà entendu, mais quand on est mené 4-0 contre notre vestiaire, on se regarde tous dans le vestiaire et tous nous, entre joueurs, entre quatre yeux, on se regarde, parce que forcément, les regards, des fois, en disent long, et on se dit tous, mais comment on va pouvoir sortir du vestiaire et du stade ce soir-là? Et là, Roland arrive et il nous dit, les gars, si on marque le premier, je pense qu'on peut gagner ce match. Bon, là, on se regarde un peu tous et on dit, tiens, Roland, il a fumé la moquette pendant la mi-temps.
Et donc, on y croit pas vraiment, mais en même temps, quand t'as un coach qui te dit ça, c'est que lui, quelque part, il y croit, et que déjà, il te commence à te donner les premiers arguments pour effectivement, faire cette remontada et ce renversement de situation qui nous permet à la fin de gagner 5-4 dans un stade qui était complètement, chamboulé, parce qu'une chose comme ça, ça arrive jamais, et c'est pour ça que je crois qu'il avait été élu match du siècle dernier. Donc c'est vrai qu'avec Roland, on a beaucoup de bons souvenirs et dans son management, et je m'en inspire encore souvent et je me rappelle souvent des petites anecdotes qu'il nous racontait ou des choses qu'il pouvait nous glisser parce qu'on avait un rapport assez, je pense, direct et assez franc. Et c'est vrai que quelquefois, je ressors quelques-unes de ces petites anecdotes ou des choses, notamment quand tu fais une première connerie, ne fais pas une deuxième plus grosse connerie. Hein, Roland, ça c'était. Non, parce que oui, c'est vrai, il a raison, parce que souvent, on peut perdre un ballon, on peut faire des choses comme ça. Mais après, derrière, il faut être capable de se canaliser pour pas justement tirer la situation.
Sinon, pour réparer ta connerie, tu as fait une plus grosse.
Et c'est les auditeurs d'RMC qui peuvent profiter des conseils de Roland. Merci beaucoup, Eric. On pourrait vous écouter parce que c'est vrai que cette saison 98-99, il s'en est passé des choses. Tu parles de la Coupe de l'UEFA, le PSG Bordeaux. Même un tir au but refusé, Eric, à Lens en Coupe de la Ligue.
Je me permets de te donner une info. Donc on te rappelle prochainement pour te féliciter d'avoir terminé numéro 1 des entraîneurs de cette saison.
Écoute, pourquoi pas, je vous remercie. Et c'est vrai que tu as raison, ce pénalty contre Lens, alors que c'était un match qui était à Caen, c'était un quart de finale ou une demi-finale, je pense, de Coupe de la Ligue.
16e.
Ce pénalty-là, peut-être 16e, et ce pénalty-là, c'est incroyable parce que si je marque, on élimine donc Lens.
Ouais, mais tu as marqué.
Ce but, il tape la barre, il rentre dans le but, mais d'au moins 50 cm. Et à cette époque, c'est marrant, hein, parce que moi, des fois, dans ma carrière comme ça, il n'y avait pas de goal light technologie. Et puis surtout, il y avait l'arbitre du centre qui était là, à côté du
tireur.
Bruno
de rien.
Mais les assesseurs étaient dans le rond central avec les autres joueurs.
Mais
les assesseurs, ils ne se mettaient pas sur la ligne. Ils ne se mettaient pas sur la ligne pour voir si le ballon était rentré.
Mais le
chose
pire,
que maintenant, la jurisprudence a fait qu'ils se sont mis sur la ligne. Et donc, comme le match était télévisé, moi, quand je tire, j'ai l'impression qu'il est rentré, mais l'arbitre me dit non. Moi, je rentre en marchant vers le banc, et là, comme il y a la télévision, le mec me dit, mais il est rentré de 50 cm. Donc, à l'arrivée, on ne gagne pas, parce que, j'allais dire, au finish, on perd. Et ce qui est incroyable, c'est que cette année-là, Lens gagne la Coupe de la Ligue.
Oui, mais il y a pire, comme souvenir. C'est que moi, quand nous sommes éliminés, puisque nous avons le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA, ben d'être éliminé de la Coupe de la Ligue, alors c'est sûr que je faisais pas la gueule, j'étais même content. Et je m'amuse à taquiner Gervais Martel en lui disant « Eh, on sait jamais ce qui peut se passer parce que le football, il est souvent bizarre. Donc si des fois tu gagnes la Coupe de la Ligue, tu te rappelleras et tu déclareras que tu as gagné la Coupe de la Ligue en ayant été éliminé en 16e de finale. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je me suis battu pendant plus de 20 ans pour que les finales Coupe de la Ligue et Coupe de France ne fassent pas le championnat dans le sprint final. Mais le calendrier donne à Lens, qui n'aurait jamais dû jouer cette finale de Coupe de la Ligue, un match contre Bordeaux 3 jours avant, avec des Lensois qui, tout à fait logiquement, on peut pas leur en vouloir, mais préparer tranquillement cette finale. Et Bordeaux, a su profiter de cette occasion, est allé gagner 4-1 ou 4-2 à Lens, qui n'a pas perdu de cette saison-là un match à domicile. Et quand il te manque un point à la fin, je suis peut-être mauvais perdant, mais ça, je changerai pas aujourd'hui. C'est trop tard. J'en ai encore même les boules.
Et le foot est cruel. Merci beaucoup, Eric.
Merci, messieurs.
Salut, Eric.
Merci de nous avoir accordé presque 20 bonnes minutes. C'était un plaisir.
On vit pour ça aussi, pour les émotions et pour les souvenirs. Donc, voilà.
Parfois positif, parfois négatif, mais en tout cas avec Brest, c'est du bonheur. Merci beaucoup, Eric Roy.
Salut.
Invité de l'Intégral Sport sur AMC. Merci, coach. Coach, tu ne bouges pas. On va parler de la lutte pour le maintien. Ça ne concerne pas du tout les Brestois. Ça les concernait l'an passé, mais pas cette saison. Bien au contraire, on est toujours avec Pierre-Yves Leroux et Valentin Jamin qui va revenir pour parler de Clermont quasi en Ligue 2, de Lorient sur une dynamique catastrophique, Le Havre qui fait la belle opération du week-end ou encore la colère messine. À tout de suite dans l'Intégral Sport jusqu'à 15h.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
La dernière ligne droite de l'Intégral Sport jusqu'à 15h, toujours avec coach Courbis. Dans un quart d'heure, ce sera l'Intégral Rugby. Christophe Cessieux, Yann Delegue, la Dream Team, pour présenter et commenter cet événement du jour, la demi-finale de Champions Cup de rugby entre Toulouse et les Harlequins, à vivre en direct et en intégralité depuis le Stadium de Toulouse avec nos invités, nos commentateurs, Wilfried Templier et Julien Landry. Juste avant d'évoquer la suite de la Ligue 1 et de notre débrief de ce qui s'est passé, notamment pour la lutte pour le maintien, un petit point sur le Giro, puisqu'on est rentré dans les 100 derniers kilomètres. Johan Bredov suit pour nous la deuxième étape de la course italienne. Johan,
encore 90 kilomètres à parcourir pour cette deuxième étape, et toujours la même situation de course avec 5 hommes en tête, 5 Italiens qui possèdent désormais 3 minutes et 57 secondes d'avance sur un peloton qui a accéléré par l'intermédiaire de la Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar. Les Ineos aussi sont devant l'équipe de Jonathan Narváez, le leader du classement général, avec son maillot rose. Et j'ai également vu à l'avant les Décathlon à G2R, la mondiale, l'équipe française qui travaille pour son leader australien Ben O'Connor. Allez, encore 89 km à parcourir pour cette deuxième étape.
À tout de suite, Johan. Valentin Jamin est de retour en studio. Rebonjour Valentin. Bonjour. Toujours avec Pierre Leroux et coach Courbis. Tu commentais un match des extrêmes hier. On a parlé de Monaco il y a quelques instants. Clairement, est-ce que tu as senti de la résignation chez les Clermontois, qui sont donc derniers, 25 points, et qui, à deux matchs de la fin, puisque tout le monde en bas de classement a le même nombre de matchs, ils sont à 4 points du barragiste Clermont et qui sont à 4 points du premier barragiste Metz. Oui. Ils peuvent au mieux finir justement barragiste. Hein.
Exactement, c'était l'information après le match. Alors comme Clermont hier avait joué avant Metz, au moment où on a interrogé les joueurs, ils ne savaient pas s'ils étaient officiellement en Ligue 2 ou s'ils avaient encore une chance d'être barragistes. En l'occurrence, ils peuvent encore être barragistes. Et les discours étaient quand même un peu positifs. Quand on demandait aux joueurs, est-ce que voilà, vous vous sentez condamnés, est-ce que ça va être trop difficile pour vous, que ce soit Maximiliano Coffrier, Johan Gastien, ils nous disaient non, on espère, pour la simple et bonne raison que mathématiquement ça n'est pas fait. On a envie de gagner nos deux derniers matchs, puisqu'il y a Lyon, et après en plus il y aura Lorient dans un choc des extrêmes de bas de tableau. Donc il y a encore ce petit espoir. Mais ce qu'on a aussi beaucoup senti, c'est qu'ils sont éreintés. En fait, Johan Gastien, il était éreinté hier. Il nous a dit clairement, j'ai envie que cette saison elle se termine, parce qu'être dernier, c'est terrible. Tous les week-ends, en fait, on espère, et tous les week-ends, on répète la même chose après. Donc lui dit clairement qu'il a envie que ça s'arrête, qu'il a envie d'être en vacances, que c'est une saison qui est très difficile, que Clermont est aussi finalement, on va dire, à sa place. Hein. C'est pas choquant de voir le Clermont foot dernier avec le budget. Mais le discours était un petit peu double, qui était de dire, on a envie d'y croire jusqu'au bout pour le club, pour les supporters, et essayer d'accrocher cette place de barragiste. Mais tout le monde a l'air quand même très fatigué au Clermont foot. Et certains ont sûrement intégré que ça allait être très très difficile quand même d'aller un petit peu plus loin que cette place de dernier.
C'est vrai que coach, avec cette Ligue 1 désormais à 18 et non plus à 20, c'est plus dur pour Clermont de s'en sortir.
Complètement, mais en plus de ça, vu le calendrier qui reste, c'est vrai que chaque fois on rajoute mathématiquement, oui, ok, mathématiquement. Mais il y a un dernier match, et ça c'est pas mathématique. Il faut quand même en faire un peu les calculs. Il y a un dernier match qui est clairement Lorient. Donc ils pourront pas gagner prendre 6 points les deux équipes sur les deux dernières journées. Donc je pense qu'il faut peut-être penser que, sauf, je dirais même pas exploit, sauf miracle, Lorient Clermont, ben c'est quand même très très compliqué de ne pas descendre. Je pense que pour se maintenir, il faut regarder un petit peu ce qui va se passer entre Metz et le Havre, puisque même Nantes, je les mets plus, moi, avec ce point d'hier, dans la possibilité. Oui, mathématiquement, oui. Mais disons que je pense que les barrages vont se jouer soit par Metz, soit par le Havre.
Surtout que, Pierre-Yves, tu es toujours avec nous, les Lorientais, c'est quand même une dynamique catastrophique, 6 défaites de suite, avec des matchs contre Marseille et Clermont la dernière journée, un match contre Clermont qui pourrait en plus servir à rien. Hein.
Oui, ça pourrait compter pour du beurre, effectivement. C'est vrai que ce qui se dégage autour du FC Lorient actuellement, c'est pas positif. Hein. Et assez paradoxalement, on a entendu le président Loïc Ferry, à la fin du match contre Toulouse, après une défaite la semaine dernière, nous dire « on a encore notre destin entre nos mains », alors que pas du tout. Si tout le monde gagne autour, Lorient
déjà à ce moment-là ne pouvaient plus se maintenir. Et on a entendu aussi Régis Lebris dire avant-hier soir, voilà, on est en Ligue 2, entre guillemets, voilà, c'est pas des diffusions d'informations et de motivations qui sont très positives. Je pense, comme Roland, que ce sera très compliqué pour les Lorientais. Mais peut-être que le point clé de la soirée d'hier, on parle de Nantes, on parle de Lorient, on parle de Clermont, mais ce sont peut-être les dernières minutes à Metz, avec Metz qui, à un moment, a les trois points de la victoire.
Bah, oui.
Et même un peu avant, a les trois points. Il y a 2-2, finalement, il y a 3-2. Et puis, il y a ce carton rouge pour l'élément clé à Metz et Mikotadze. Donc, on va savoir si c'est maintenu ou pas, peut-être dans les jours qui viennent, cette sanction. Mais ça peut tout faire basculer et mettre Metz peut-être dans la position du barragiste, finalement.
Sachant que les dirigeants messins essayent de faire annuler ce carton rouge, mais c'est compliqué. Ces fois, ça nécessite un rapport complémentaire de l'arbitre. Juste sur Lorient, on a Antoine qui a composé le 32-16. Supporter des Merlus. Bonjour Antoine.
Ok.
Est-ce qu'on a Antoine? On va le voir Antoine dans quelques instants, c'est pas grave. Supporter des.
Vous m'entendez?
Oui Antoine, c'est bon, on t'entend. Bonjour Antoine.
Bonjour à tout le monde.
Bon, est-ce que tu gardes espoir ou tu es résigné quand on voit, au-delà de la situation comptable, finalement, il y a encore cette chance d'être barragiste, mais quand on voit l'environnement, les prestations, la colère des supporters, tu te dis quelque part que ça sent quand même la Ligue 2.
Bah, c'est compliqué, hein. C'est sûr que la dynamique, elle n'est pas du tout pour, elle est pas du tout pour Lorient. C'est très compliqué. En plus, le calendrier qui arrive est quand même très très compliqué. Au-delà de la dernière journée, qui, comme vous l'avez dit, pourrait ne servir à rien, les matchs qui arrivent vont quand même être décisifs et très compliqués. Et je pense que le maintien, si on se maintient pas, on perd pas le maintien sur les deux matchs qui vont venir. Quoi. C'est plus avant que le boulot aurait été fait.
Absolument.
Absolument.
Est-ce que tu vois une fatalité, une descente? On sait qu'il y a peu de temps, Lorient avait connu une descente, était remonté avec Christophe Pélissier.
Oui, mais depuis, c'est le 8e budget de Ligue 1. Mmh. Les choses ont changé.
Avec un budget, 80 millions annoncés. Mmh. Antoine.
Ce qui est dur, c'est surtout le contraste avec l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une descente qui s'est faite depuis la très bonne première partie de saison de l'année dernière. Et en fait, on ne voit pas trop ce qui a pu se passer. C'est très compliqué. Depuis cette période-là, ça descend et en fait, on n'en parle pas tant que ça. Et finalement, on a glissé et on finit dans une position qui est très très compliquée à très peu de journées de la fin.
Et une personnalité qui cristallise un peu tout ça, Pierre-Yves, c'est Régis Lebris.
C'est vrai qu'un des éléments clés, c'est peut-être ce qui s'est passé là aussi l'été dernier, quand Régis Lebris explique qu'il a des envies de départ parce qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Finalement, le président Ferry fait des choix en donnant les quasi complets pouvoirs à Régis Lebris au niveau sportif, et que derrière il y a des choix de joueurs qui ne fonctionnent pas, que la saison ne prend pas et qu'il n'arrive pas à trouver les solutions. On a cru à un moment qu'ils allaient se réveiller au bon moment, il y a 6-7 journées, et puis finalement la machine s'est à nouveau enrayée. Donc il y aura une analyse à faire à la fin du championnat, mais c'est vrai que la responsabilité de Régis Lebris, elle est forcément engagée, et que son avenir au FC Lorient, il est peut-être en pointillé désormais.
Alors pour continuer et terminer avec Lorient, nous avons quand même le calendrier de Lorient. On a parlé d'un Lorient Clermont à domicile, et aussi dimanche prochain, trois jours après le match retour contre l'Atalanta à Marseille. On peut penser du côté de Lorient qu'on va peut-être profiter des émotions et de la fatigue de l'OM dans ce match à Bergame. Bon, ça c'est le petit espoir qui peut rester à Lorient, mais Marseille ne pourra pas faire l'impasse sur ce match parce qu'ils ont encore la possibilité de terminer 7e. Donc c'est pour ça que ça me paraît plus que compliqué.
Et dans l'ambiance du Vélodrome, c'est toujours compliqué.
Merci beaucoup Antoine, supporter lorientais. Merci Valentin. Pile, juste avant qu'on se quitte, à 20 secondes, est-ce qu'à Nantes, on se considère quasiment maintenu ou pas? On est 14e, 33 points, 4 points d'avance sur le barragiste.
Ça sera sûrement pas le discours d'Antoine Comboiré. Je pense que le discours, ça sera... Et je reprends ces termes, il faut se dépuceler à la Beaujoire, c'est-à-dire que contre Lille, il faut arrêter cette série historique de défaites, donc un point minimum et si possible une victoire le dimanche 12 mai pour assurer devant le public de la Beaujoire le maintien et enfin le retour des victoires à domicile.
Antoine et ses joueurs en sont capables, je pense.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, Valentin Jamin et plaisir. Merci coach Courbis.
Salut.
L'intégral rugby avec cette demi-finale de Champions Cup arrive. Toulouse contre les Harles Queens à vivre en direct et en intégralité avec Christophe Cessieux, Yann Delegue, nos envoyés spéciaux Wilfried Templier, Julien Landry. Ça c'est du French Flair, en veux-tu en voilà. Très bel après-midi sur RMC.
RMC Intégral Rugby.